Bonjour
et bienvenue sur Gameblog. Alors on voulait faire un essai mais ça n'a pas marché, c'est pas grave. Il y a que toi qui n'a pas suivi en fait.
Bah et Johnny One alors.
Non moi j'ai c'est pas capté non plus.
On bah, putain merde, bon bah tant pis, on recommencera pas.
Mec. Bienvenue. J'ai même pas vu, vous vouliez faire quoi?
Non rien du tout, tout va bien, tout va bien. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce podcast numéro 506. J'allais dire bienvenue dans ce Gameblog en fait. Je crois que vous m'avez perturbé là
les amis. Pas faux cela dit.
Exactement.
Bienvenue dans ce Gameblog.
Pour ce podcast 506. Nous accueillons en guest star Johnny One, voilà, qui vient nous rendre visite pour parler de plein de choses que je vais vous expliciter dans quelques instants. Yes. Thomas, le cantilien.
Yes.
Voilà, ça va?
Bah ouais, bonjour, comme on dit chez moi.
Exactement. Et Romain, bien sûr.
Bonjour.
Le Valoisien.
En semi-présence. Moi, je ne serai là que quelques minutes.
Oui, Romain sera là au tout début, puis ensuite il ira vaquer d'autres occupations.
Jouer à Shenmue 3.
Intense et magique. Exactement. Eh bien, messieurs, comment allez-vous? Tout va bien?
Super.
Parfait, la pêche, la banane. Eh bien,
ça biche, comme disaient les inconnus.
Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce podcast 506? Je vous le donne en mille. Bien sûr, heureusement que j'ai des fiches, parce que sinon, ça serait la mort. Il y aura évidemment le win et le fail. On va parler de Shenmue 3, n'est-ce pas? Un petit peu. Le fail en Australie, voilà, où c'était un peu bizarre ce qui s'est passé. Bien sûr, la rubrique il y a 10 ans sur Gameblog. Et surtout, les thèmes qu'on va aborder. Le State of Play pour le thème numéro 1, entre autres. Last of Us 2, évidemment, puisque... Thomas revient d'un long périple à Los Angeles, il a pu mettre les mains sur la démo. Le thème numéro 2, ça sera les Dark Souls à gogo, comme on dit, avec Johnny One.
Ouais, on en a eu plein là. Hein.
Exactement, tu les as tous testés, tu vas nous dire ce que t'en penses et pourquoi le monde se Dark Soulise.
Exactement, tout à fait.
Je crois que c'est des lendemains qui chantent normalement.
Exactement.
La Dark Soulisation des esprits.
Exactement. Et le thème numéro 3 avec les Dragon Quest qui reviennent à la mode, n'est-ce pas mon cher Thomas?
4 la semaine dernière.
Exactement.
4
Dragon Quest, voilà.
Mais où est-ce que tu vas trouver le temps de jouer à tout ça?
Mais t'inquiète, il a trouvé.
Bah pareil pour les Souls et toi. Hein.
Oui. C'est vrai que quelque part c'est pas
oui,
beaucoup
remarque, c'est
moins long.
Mais hein. il y en avait que 2, il n'y en avait pas 4.
Putain, j'aurais dû faire 3, j'aurais eu encore plus de temps. Ouais.
Et voilà, et bim!
Ça y est, on tire à balle réelle, c'est parti.
Et bien sûr, les rubriques anniversaire et hors-jeu qu'on aura à la fin du podcasto. Mais messieurs, on va commencer tout de suite par le win, n'est-ce pas Romain? Puisque
oui.
Je crois que tu as des choses à dire sur un certain jeu qui te tient à cœur, ou pas d'ailleurs.
J'en ai déjà dit pas mal la semaine dernière pendant le Gameblog Live et le faux Gameblog Live que j'ai fait juste après parce que la vidéo a merdé. Oui. Bah, c'est la démo de Shenmue 3 en fait, et qui est enfin arrivé pour les backers de plus de $100.
Exact.
Donc c'est pas une démo qui est
dont
disponible.
Tu fais partie.
Oui, c'est pas une démo qui est disponible pour tout le monde. Ça a confirmé mes suspicions au sens où c'est la même démo que celle à laquelle j'ai joué à l'E3 ou au TGS. Alors dans une version un peu plus aboutie techniquement en revanche. Et bah ça a confirmé les bonnes impressions que j'avais eu au TGS par exemple au sujet de Shenmue 3. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est en lisant les commentaires aussi bien francophones qu'anglophones, bah que les gens sont rassurés en fait. Et l'effet que moi j'ai eu en y jouant à l'E3 ou au TGS, et bah c'est l'effet qu'ont eu la plupart des gens qui ont pu essayer cette démo. Après, faut se dire aussi que les gens globalement dans l'ensemble qui ont joué à cette démo, ce sont des gens qui ont backé, donc qui ont déjà quand même un affect très prononcé pour Shenmue.
Oui, et
qui ont
backé plus de $100 en
plus. Alors après, il y a pas mal de gens qui avaient backé pour une version PS4 du jeu et qui ont eu la démo en bonus, on va dire, et qui n'ont pas de PC. Donc j'ai vu sur des forums américains, etc., il y a eu pas mal de deals, d'échanges de codes pour les gens qui ne pouvaient pas en profiter. Donc il y a aussi quelques personnes qui n'y auraient pas joué autrement, qui ont quand même eu accès à cette démo. Mais globalement, les impressions sont bonnes, avec les réserves qu'on émet depuis le début sur les visages, sur les animations, etc. Mais en tout cas, le système de jeu, le feeling, c'est vraiment Shenmue et les environnements sont quand même beaux.
Les menus, ils n'ont pas beaucoup changé, non?
Non, en fait, il y a plus de...
Mais ils sont HD.
Il y a plus de catégories et plus de choses que tu peux faire. Mais dans l'interface, ils ont voulu faire quelque chose de globalement assez proche de Shenmue 1 et 2.
Oui, il n'y a pas d'innovation.
Ça, c'est une photo époque Dreamcast.
Ouais, ils ont repris les photos d'époque.
Bah,
ils ont
ça
pas
joue
pas
sur la corde nostalgique.
Un peu aussi, et ça aide. Mais globalement, les avis étaient positifs. Hein. Il y a eu des déçus, hein, parce que je pense à Poufy qui a joué à la démo, ça lui a pas trop plu.
Poufy joue en 8K, alors forcément.
Il me disait qu'il attend de voir le scénario dans son ensemble, parce que là, c'est vraiment
un morceau, quoi.
Un morceau en fait qui te permet surtout de voir les environnements et les à côté plutôt que l'histoire principale en elle-même, parce qu'elle elle révèle rien. Finalement, cette démo, elle révèle rien sur l'histoire. Mais le feeling Shenmue est là. En fait, c'est curieux à dire, mais on a presque l'impression de jouer à un jeu Dreamcast qui sortirait maintenant, tu vois,
avec ultra lissé alors.
Voilà, que... évidemment amélioré, amélioré techniquement, mais ça garde les bases du jeu Dreamcast, en rendant peut-être la maniabilité un petit peu plus souple, parce que déjà il y a un meilleur contrôle de la caméra et Ryo, et même s'il se déplace de manière rigide, il a quand même plus de possibilités de déplacement qu'à l'époque. Ouais. Et enfin franchement, moi je l'ai déjà évidemment fait plusieurs fois la démo et j'ai pris mon pied et j'ai hâte de continuer l'aventure et de découvrir tout ce qui va autour de cette démo. Et c'est chouette. Et même des gens qui étaient très très méfiants ou très craintifs ou même très pessimistes, certains ont un avis plus positif à l'issue de cette démo. Donc c'est plutôt cool. Je pense que chez Yu Suzuki, on a dû peut-être soupirer un peu de soulagement après la diffusion de cette démo. Et en plus, il faut se dire que, enfin, on peut
espérer... ça partait de loin en tout cas.
Oui, ça partait de très loin, et on peut espérer que d'ici la sortie du jeu le 19 novembre, il y aura encore eu des petites, elles seront pas immenses,
oui,
hein,
oui,
mais il y aura peut-être des petites améliorations encore apportées d'ici là. Mais on est loin de la catastrophe
annoncée par certains.
De la catastrophe annoncée par certains, que moi je n'ai jamais annoncé personnellement. Moi, je suis plutôt constant dans mon opinion sur la chose, mais c'était cool et j'ai hâte d'y rejouer maintenant.
Parfait. Bah écoutez, c'est une bonne nouvelle, donc le win pour Shenmue 3 qui arrive très 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 bientôt, ma foi. Merci Romain.
Le 19 novembre
sur
PS4 et PC. Et voilà, et l'autre aussi, c'est l'autre truc, c'est que je suis curieux maintenant de le voir tourner sur PC, parce qu'à chaque fois que j'ai pu y jouer, c'était quand même sur des PC costauds. Et
sur PS4, tu veux dire?
Hein, j'ai dit quoi?
T'as du PC?
J'ai hâte d'y jouer sur PS4 parce que j'y ai joué jusqu'à présent sur des PC assez costauds, et voir comment ça tourne sur une PS4 normale et sur une PS4 Pro.
Voilà, exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Passons maintenant au fail, mon cher Thomas.
Et oui.
Et là, c'est le drame.
C'est l'argent qui fait tourner les têtes.
Et le monde aussi, ouais.
Et le monde.
C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige
la Terre. Et c'est peut-être aussi l'e-sport qui rentre dans une phase de maturité, puisque l'e-sport désormais attire la convoitise du crime organisé. C'est ce cher Plume qui nous racontait.
Étonnant.
Qu'en fait, en Australie, une équipe d'Overwatch qui s'appelle les Overwatch Contenders serait au cœur d'une affaire de match un petit peu truquée, avec des paris du même nom, qui auraient a priori permis de générer à peu près $30,000 auprès de quelques initiés. Donc pour l'instant une goutte d'eau, mais
ça
n'est qu'un début, on va dire. Comme Plume nous le rappelait, effectivement pour un joueur pro c'est pas grand chose, mais pour les gens qui gravitent autour, ça peut représenter beaucoup. Donc la police de Victoria enquête évidemment et croit savoir que dans le giron, dans l'environnement de cette team Overwatch Contenders, il y a des gens qui ne sont pas forcément très recommandables et qui ont été a priori identifiés. Donc il faudra évidemment suivre l'affaire d'un petit peu plus près, mais visiblement il y a quelque chose d'assez louche qui se déroule du côté de l'Australie. Alors ce qui serait intéressant,
si avec ça
voilà. Oui, alors au niveau des mœurs et tout, moi je ne prononcerai pas, les Australiens font ce qu'ils veulent. Quand on est insulaire, c'est toujours un petit peu particulier, on le sait bien. Mais quelque part, est-ce que l'e-sport est pas en train de rentrer dans une certaine phase de normalisation et de maturité, puisque s'il commence à y avoir de la magouille comme dans le sport
traditionnel,
c'est peut-être que justement il est en train de rentrer dans le langage courant quelque part.
Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un peu à cause de ça que le Japon a été très frileux pendant très longtemps vis-à-vis des compétitions e-sport, etc. Parce que comme il y avait du cash prize, les Japonais, le jeu d'argent, c'est très déjà c'est globalement interdit, mais c'est surtout très connoté mafieux. Ouais. Les liens avec les Yakuza, etc. Ouais. Et donc pendant longtemps, il n'y avait pas de compétition d'e-sport au Japon, justement parce qu'il y avait des cash prizes et que c'était lié au jeu d'argent, etc. Et avec les implications que ça pouvait avoir. Donc
du coup, c'était tout pour la Corée.
C'était tout pour la Corée. Ouais. Mais ça commence à venir. Mais donc cette histoire en Australie, ça montre qu'effectivement, quand il y a de l'oseille, la mafia, la pègre n'est jamais très loin.
Quel que soit le milieu,
c'est un point de départ. $30,000 pour l'instant, on verra où l'avenir nous mène.
Appelons Bernard Tapie pour savoir s'il a des idées.
Ou pas. Merci beaucoup pour ce fail, Thomas. Et nous allons tout de suite passer à Il y a 10 ans sur Gameblog. Eh bien, Romain, que s'est-il passé il y a 10 ans sur Gameblog.fr.
Et ben, on sait que c'est le mois de septembre, c'est le mois du TGS.
C'est
et
vrai.
Historiquement. Et là, il y a 10 ans, tout court, Julo était au TGS
c'est
et il avait vu.
Et en vacances,
une
pas.
Présentation. Il avait vu une présentation de Final Fantasy Versus 13. Et ce qui est amusant, c'est qu'il était sorti de cette présentation pour le moins. Comment dire, étonné que Square Enix montre ce jeu alors que bah il y avait rien qui allait, développement était clairement pas très avancé, le concept du jeu était nébuleux, enfin c'était même pas très beau, je crois. C'était pas encourageant. Il faut se rappeler dans le contexte que Final Fantasy Versus 13 est annoncé en 2006, donc ça fait quand même 3 ans qu'il est en développement et ça va toujours pas. Alors après, on sait ce que ça a donné. Hein. Il est resté en développement pendant très longtemps. Ensuite, il s'est transformé en Final Fantasy XV. Et il a fini par sortir fin 2016. Donc, on voit que 7 ans plus tôt, oui. Il était déjà présenté au TGS. Et c'était pas convaincant du tout.
Je pense qu'ils sont partis à zéro, hein, tout simplement, comme toujours.
Et, ah bah oui, ils ont recommencé.
Ils ont gardé, on voit la ville.
Ils ont gardé la lune.
Ouais. La ville est restée telle quelle. On voit
certains designs,
quelques-uns des personnages principaux qui ont été affinés, on va dire, avec le temps. On reconnaît leur silhouette. On voit que Noctis a finalement assez peu changé dans la version finale. Mais c'est étonnant de voir qu'à la première présentation, Julo était déjà vachement circonspect sur ce qui était présenté. Et on sait
c'est un génie,
malheureusement ce qu'il était devenu du jeu 7 ans plus tard.
Et de Julo.
Parce que même une fois... ils ont disparu de la circulation tous les deux. Même une fois le titre changé et des modifications apportées au gameplay, FF15, ça reste un épisode qui n'a pas fait l'unanimité auprès de toutes
loin
les personnes qui s'y sont essayées. Mm-hmm. Donc ouais, c'est une drôle d'histoire.
Par contre, quelqu'un qui avait
mal commencé.
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la vidéo elle était à l'envers?
Je ne sais pas, peut-être pour éviter des problèmes de copyright.
C'est super bizarre.
Sur YouTube,
c'est une vidéo officielle YouTube. Hein,
la voiture est aussi devenue une décapotable entre temps. Ils ont fait sauter le toit.
D'accord.
Pour que le côté road trip soit accentué,
ouais,
les
en fait,
trip entre potes.
Ben voilà, comme quoi même au Japon, hein, quand ils sont pas satisfaits, hop, ils sacquent tout, ils recommencent à zéro et c'est pas grave. Ils préfèrent le sortir 7 ans après plutôt que de bâcler le truc. Voilà.
C'est arrivé à plusieurs reprises. Hein. Resident Evil 2 qui est cané au bout de quoi, 70 ou 80% de développement. Mmh. On a eu un Metal Gear Rising qui était pareil lui aussi. Qui est sorti totalement différemment de ce qu'il devait être à la base, avec
Mass
un autre studio en plus.
Mass Effect Andromeda.
C'est pas très japonais ça.
C'est pas très japonais. Nioh, tiens, qui lui a même vécu deux phases de développement. C'était un RPG, c'est devenu un Mouzou, et c'est redevenu un RPG Dark Souls.
Ouais, donc tu vois, ça arrive, hein. Ils n'hésitent pas à le faire. Ce qui est tout à leur honneur finalement, plutôt que de sortir une merde. Parce qu'il faut se dire que quand tu relances un développement comme ça après des années de développement, tu t'assois sur quand même des millions de dollars de frais de développement.
Il y a quelques pertes derrière, c'est sûr.
Donc,
certains. Voilà. Autre news d'il y a 10 ans, Romain.
Et autre news, c'était le genre d'actu qu'on avait l'habitude d'écrire à l'époque.
Ça craint,
c'était les déclarations de Keiji Inafune. Un des papas de Megaman, mais qui n'est pas le papa de Megaman. Ça, c'est quelque chose qui a été dit à tort pendant des années.
Moi, j'ai jamais dit ça.
Créateur de Dead Rising. Donc, qui avait un peu le vent en poupe à ce moment-là chez Capcom. C'est bien. Déjà, il est plus chez Capcom maintenant, mais c'est bien retombé depuis. Et pendant plusieurs années, à chaque fois que Keiji Inafune prenait la parole, c'était pour dire que le jeu japonais était mort. Et donc là, en l'occurrence, il parlait du fameux TGS auquel était Julo pour voir Versus 13. Et il dit personnellement, lorsque je fais le tour de tous les jeux de ce TGS, je me dis, mec, c'est fini pour le Japon, on est mort, l'industrie du jeu vidéo nippon est terminée. Alors,
la déclaration.
Poufi, tu peux mettre un violon lancinant derrière.
Mais il a fait ça pendant des années, hein, vraiment. Keiji Inafune, à chaque fois qu'il l'ouvrait, c'était pour dire que tout se faisait en Occident, que les Japonais étaient dépassés.
À cette époque-là, ce qu'il avait pas tort aussi.
Voilà, en fait.
Oui, jamais, c'est peut-être un peu.
Rapide. Oui, le
problème, c'est ce mec dans les Tintins qui agite une cloche en disant c'est la fin du monde.
C'est un peu péremptoire.
Le problème, c'est qu'il
Jésus.
A été trop catégorique. Ouais. Il les a. Dire, on est dans une mauvaise passe, on a besoin de se renouveler, on n'est pas ce qui se fait de mieux en ce moment, ça aurait été très juste.
Et c'était clairement le cas.
On s'en moquerais pas maintenant, tu vois. C'est parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand tu comparais ce qui se faisait en Occident et ce qui se faisait au Japon, le Japon était un peu enfermé dans une façon de faire et dans des styles de jeu qui n'avaient pas beaucoup évolué depuis plusieurs années.
Oui, et développé sur PS3, qui n'était pas non plus la machine la plus simple de cette génération.
Alors que les Occidentaux, bah, ils essayaient d'autres choses, et c'était l'époque où le RPG occidental a comment pris son envol. C'est à ce moment-là où le TPS est un genre qui a explosé, parce qu'on sait que des Japonais, il y en a plusieurs qui ont essayé de faire des TPS et c'était loin d'être toujours réussi. Donc il y avait du vrai dans ce qu'il disait, mais il était peut-être trop il enterrait trop vite le jeu vidéo japonais, parce qu'on a vu ces 5-6 dernières années
ils sont revenus
un comeback des studios japonais, parfois avec des recettes un peu à l'ancienne, et c'est qui a fait plaisir un peu aux gens, mais avec aussi de nouvelles idées. Et donc le seul qui est mort et enterré plus ou moins maintenant, c'est Keiji Inafune.
Il m'est mort. Quoi,
il était visionnaire, mais que pour lui en fait.
C'était une partie très petite du jeu vidéo japonais en fait, la sienne.
0,0001%.
Quant à Record.
La Miricor, tu te rappelles? Bref.
Et donc voilà pour Keiji Inafune, qui nous a fait rigoler pendant des années.
Exactement.
Il nous inquiétait à l'époque, mais il nous a fait rigoler par la suite.
Moi, il me fait pas rire, parce qu'il a pris mon argent. Donc,
c'est vrai?
Ouais. J'ai backé Mighty No. 9, donc je l'ai en travers de la gorge.
Ah, c'était toi?
Alors tu vois, moi j'avais acheté Dead Rising le jour de sa sortie, j'en étais très content.
Dead Rising, c'est très bon.
Oui, c'est bien.
Je crois que c'était lui qui était sur Soul Sacrifice aussi, sur PS Vita, si je dis pas de bêtises, il me semble bien.
Il avait revolté aussi. Ouais, c'est pas lui qui avait bossé sur le Yaiba Ninja Gaiden Z ou le truc comme
peut-être.
C'était une sacrée daube.
Mais je crois pas que
tu en demandes trop là.
Si, si, il était dans l'eau, je crois. Il y avait son studio. Vérifie. Mais on va passer sur la troisième news et Johnny confirmera ou pas.
Et la troisième news d'il y a 10 ans.
Qui est parfaite pour l'actualité du moment et qui est bien savoureuse elle aussi. C'est ce cher Hideo Kojima. Qui avait fait des déclarations auprès de Kotaku pendant le TGS, riche en déclarations et en événements, interrogé sur le fait qu'il puisse un jour laisser quelqu'un d'autre que lui développer un jeu Metal Gear, parce qu'il faut se dire qu'en 2009, Kojima, il est encore chez Konami, et il est bien chez Konami.
Je confirme, donc il a bien fait Mighty No. 9, Record récemment, Soul Sacrifice, et cette merde de Yaiba Ninja Gaiden
Z. GG.
Quelle mémoire, ouais, j'avoue là que...
Ouais, j'ai un peu de métier.
Tu nous as bien eu.
et donc on revient sur Hideo Kojima qui en 2009 est bel et bien chez Konami. On est loin du divorce, hein. C'est des années et des années 2009, après. Ouais. Donc il est en plein dedans. Et donc questionné sur le fait d'accepter potentiellement de laisser quelqu'un d'autre développer un MGS, il a déclaré. Alors attends, je relis. Il parlait du tout premier MGS. Il dit je l'ai réalisé il y a déjà très longtemps. Ce pourrait être une jeune personne qui a sans doute plus de capacité que moi qui pourrait s'y coller. Ce serait même bien si une équipe d'un studio étranger le faisait. En fait, c'était l'idée de refaire refaire le premier Metal Gear ou un truc comme ça. Et donc, on voit que, à l'époque, Hideo Kojima ne rejetait pas du tout l'idée de confier son bébé, entre guillemets, à quelqu'un d'autre. Et curieusement, post-départ de Konami, ce positionnement a changé. Curieusement, maintenant, il se détache avec un peu de... Peut-être pas d'arrogance, mais certainement peut-être un peu d'arrogance. Enfin, il se détache... De quoi?
Non, rien.
Je suis un peu enrhumé, désolé.
Oui, Kojima se détache volontairement et volontiers du moindre projet lié à Metal Gear en disant non, mais j'ai rien à voir avec ça. Je ne m'associe pas à cette
merde.
Je suis
au-dessus de la mêlée.
Ce qui n'est pas toujours vrai quand on connaît les coulisses, mais bon. En tout cas, ça montre que Kojima était pas contre à cette époque-là quand ça tout allait bien avec Konami et que potentiellement ça lui aurait permis de faire autre chose chez Konami. Après moi je sais pas où vous vous situez par rapport à ça, mais moi je pense effectivement qu'il y a des gens très talentueux qui seraient capables de faire un bon Metal Gear sans Kojima, et je serais curieux de voir ça un jour, parce qu'on sait qu'il y a y a eu des spin-off portables de Metal Gear, aussi bien Portable Ops que les Metal Gear Acid, qui étaient dans des genres totalement différents mais qui étaient des jeux Metal Gear malgré tout, qui étaient très bons. Et donc sans que Kojima ne travaille dessus, donc je pense effectivement qu'il y a des gens capables de le faire. Faut juste que Konami leur en donne l'opportunité et les moyens. Voilà, c'est mon avis sur la question.
Eh bien, merci beaucoup Romain pour.
Alors moi, je note tout de même la chute de cette.
J'étais sûr, c'est pour ça que tu te marrais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de regarder le truc, il est en train de se marrer.
Mystère et boule de geisha, c'est ça.
Et boule de geisha.
Et qui a signé la news, hein, on se demande.
Comme d'habitude.
On se demande bien. Je te jure, on s'amusait à l'époque. En tout cas.
Que les gens criaient au scandale à l'époque quand tu faisais des trucs comme ça, et qu'ils disaient, oh, comment tu peux oser des
trucs comme ça. Non, je pense que j'en plutôt. Ouais.
C'était plus détendu à l'époque.
Ouais, c'était plus simple en 2009.
Ouais, exactement.
C'était un autre temps.
En 10 ans, l'époque a tellement changé que. Voilà. C'est fou, hein. Faut faire attention à tout ce qu'on dit maintenant. Faut faire super gaffe.
Un petit peu.
Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Un peu.
Allez, c'est parti, on va passer au thème numéro 1 de ce podcast 506.
Et moi, j'utilise ma boule.
Et Romain, lui, il
ma
va.
Ma boule de fumée.
Merci Romain.
Au revoir messieurs, dames. À bientôt.
Au revoir. Donc au thème numéro 1, ça te fait penser que toi
ouais,
t'es en train de.
J'ai mis un joli t-shirt.
Mais tu sais qu'on n'arrête pas le podcast, hein, t'es au courant quand même.
Ah, quelle classe. Oh là 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 là.
Ah ouais, pas mal. Oui. Bah alors là, vous avez tous la vidéo, vous pouvez tous la regarder.
Au revoir.
Le t-shirt
c'est
hommage.
C'est le président qui fait l'actualité, malheureusement.
Exactement. C'est quand voilà. il passait au-dessus des tourniquets du métro.
Alors,
c'est ça.
Bon, hein, c'est à peu près l'heure de la minute de silence. Là,
non, c'est à 15h. Tu l'as complètement raté.
C'était il y a quelques. On aurait pu la faire si c'était arrivé à l'heure.
Johnny One. Tiens, il est en train de zoomer sur ton t-shirt, Poufy. Regardez.
Zoom pas plus bas. Hein.
Non.
Sinon, ça va partir dans un truc.
Bon bah alors voilà. Thème numéro 1 bah, les oui, amis, hein. Le State of Play.
Ah c'est pas Chirac, d'accord.
Non c'est pas Chirac, non.
Non non non.
Mais
rendons lui hommage.
Et voilà. Rip Chirac, voilà.
Ouais et le rip... State of Play de la semaine dernière.
Avec Telou 2, et non pas Telouk, Telou 2. Il y avait pas mal d'annonces, hein. Watam, Civ 6, la PS4, Death Stranding.
En édition limitée.
Boulardesque, ah, comme tu l'as mis.
C'est magnifique. Hein.
Bah, on peut.
Et Johnny Wayne est en train déjà de vouloir la récupérer.
Un petit peu les annonces. Ouais. Effectivement, on a enfin une date de sortie pour Watam qui va arriver au mois de décembre.
Exactement.
Ça fait une paire d'années que le jeu est en développement. Je crois qu'il avait commencé en 2014. Donc, Watam, qui est, pour rappel, le nouveau jeu de Keita Takahashi, le géniteur des Katamari Damacy de Nobby Boy. Le génie, même, on peut le dire, ouais. Qui va donc arriver au mois de décembre et qui sera édité chez Annapurna Interactive. Autant vous dire que ça risque d'être fort sympathique.
Bien sûr.
Malgré les bruitages que tu trouvais un peu relous, a priori.
Non, c'est la musique lancinante que je trouvais relou, mais quand je dis relou, c'est que je trouve ça rigolo, en fait.
Donc dans un jeu très coloré où on va devoir relier les gens entre eux, un petit peu de douceur dans ce monde de brut.
Exactement, non, mais les persos ils tuent quoi, c'est tout.
Ouais, puis ils ont tous des trucs sous leur chapeau, il y a l'air d'y avoir un gimmick avec qu'est-ce que je cache sous mon haut de forme, c'est assez rigolo.
Comme disait Tata Yodo, qu'est-ce que t'as sous ton grand chapeau?
Exact,
tu te rappelles?
Quelle classe.
C'est peut-être une référence à Tata, ouais. À Nick Ordi.
Je crois qu'il y aura Nick Ordi dans le jeu.
Ah bah je pense. Comme c'est un nez qui parle.
Ouais. Avec plein d'orifices. Bref, enfin une date de sortie pour Watam. On a aussi Civilization 6 qui va arriver sur console. Alors, sur console, sur PS4.
Attends, tu vas trop vite pour Poufy là.
Et sur Xbox One, puisque le jeu était déjà sorti sur Switch, comme vous l'avez rappelé ce bon Camille. Mm-hmm. Et pour le coup, c'est le 22 novembre que vous pourrez découvrir Civilization 6. Sachant que si Camille l'adore, c'est parce que vous pouvez prendre le pouvoir et devenir un salopard de dictateur. Donc, forcément,
et ouais.
Ça fait ses affaires. Et puisque le jeu était déjà sorti sur Switch, et ben le 22 novembre, les joueurs nomades auront droit à un pack d'extension, à deux packs d'extension d'ailleurs,
qui
vont sortir ce même jour. Donc il y aura de quoi faire à la fin novembre pour les dictateurs en herbe, ou les grands démocrates, hein, allez savoir, c'est pas interdit non plus.
C'est pas interdit, exactement, je suis d'accord.
Et effectivement, Johnny One concerné au premier plan, l'annonce pendant le State of Play d'une certaine PS4 Pro Collector,
oh, oui.
Estampillée Death Stranding. Avec en plus une manette jaune transparente.
Ouais, non mais heureusement, je suis pas un grand fan de Kojima en fait.
Arrête, ouais, toi t'es un fan des collecteurs, t'achètes cra... tout.
Ouais, mais j'ai tout. Déjà la console collector à la maison. Celle-là, elle est magnifique hein, maintenant.
La blanche, tu veux dire?
Bah non, moi j'ai une toute noire, moi j'ai la Monster Hunter.
Ah d'accord,
avec
pardon.
Le dragon dessiné dessus.
Que tu as
très,
déjà
très
montré
classe.
En live.
Je crois que tu parles d'une console Kojima.
Ah, la manette, elle est stylée aussi.
Et effectivement, on a
non,
pu voir.
Non,
ça sera pas
console,
dans la version
j'adore.
Finale, mais on a pu voir le fameux fœtus qui apparaissait vite fait dans la manette, puisque c'est censé faire écho à cette espèce de plastron chelou.
Faire écho graphique.
Qu'on a en jeu. Alors, moi, ouais, je trouve à titre personnel que choisir du noir entouré de blanc comme ça sur la façade extérieure de la console, c'est pas forcément.
Ouais,
super
si, moi je trouve
chouette.
Ça c'est stylé. J'aime bien les consoles
pourquoi
blanches.
Bah, ça
j'en ai
fait
déjà
une espèce
pas
de
mal.
Sandwich. Moi je trouve ça bizarre. Ah, ouais. Moi j'aime bien quand c'est uni.
Un Oreo inversé.
Ouais, c'est
regardez,
ça, c'est comme
c'est
un anti Oreo.
Dans,
ouais.
Dans les mains, la main droite c'est le monde et la main gauche c'est. Non, la main droite
c'est l'Afrique.
C'est l'Afrique, l'Europe,
ouais, l'Afrique et
l'Océanie.
Ouais.
Et la main gauche c'est
les États-Unis.
Amérique du Nord, Amérique du Sud. Voilà.
Bien
donc, c'est rigolo, on a la Terre dessinée à l'intérieur
tu
de la.
Tu vas rire, mais si tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas fait.
Non, c'est.
Elle
est vraiment assez stylée. Elle est vraiment assez stylée.
C'est d'autant plus étonnant que. pour ce qu'on en sait, en tout cas pour l'instant, on est censé relier des villes du continent nord-américain. Et il n'a jamais été question
de relier tout le monde entier.
Que ouais, ce soit autre chose que parcourir les États-Unis d'une côte à l'autre. Donc bon, est-ce que ça ira plus loin ou est-ce que c'est pour dire qu'il va connecter les joueurs du monde entier?
Bah, c'est ce qu'il veut faire, c'est ça son but, connecter les joueurs du monde entier.
Faire pisser les joueurs du monde entier sur des champignons.
Mystère et boule de gaïcha,
on le découvrira bientôt. Évidemment, bah, la console sera disponible, mon cher Johnny,
à 3 000 euros
le 8 novembre, comme le jeu du même nom.
450, 500 balles, non?
Je crois pas que ça soit plus cher que les autres.
450 au moins.
Ouais, puis il va surtout falloir réussir à en dégoter une, quoi.
Oui,
je pense que c'est ça,
si
c'est
tu
ça l'astuce, quoi.
À l'avance, soyez au taquet, F5, et puis ça devrait le faire.
Oui, mais à chaque fois, ils disent, oh, oui, il y en a pas beaucoup, il y en a que quelques centaines, mais en fait, il y en a des milliers, donc bon.
Oh, détrompe-toi, hein. Moi, tu sais, quand j'avais acheté la Monster Hunter,
moi, j'en ai vu
il avait fallu se lever tôt, hein. Voilà.
Ouais, mais je suis sûr que tu vas retourner dans le magasin.
C'était quoi, Tôt? Mais... Tôt, c'était... non. Tôt, en fait, c'est que, bah, déjà, elle ne devait être vendue que dans une seule enseigne, et finalement, elle a été vendue dans plusieurs.
Ah, d'accord.
Et donc, j'ai sauté sur cette annonce-là. Ah, bah, machin la vend aussi, je suis tombé sur la news au bon moment. Voilà, c'est parti.
Avant de faire F5, vérifiez votre compte en banque quand même. Hein,
ouais.
Parce que...
oui. Jamais.
Bon, ils font des 4 fois sans frais, mais on vous déconseille. Hein.
Ah bah, tu pousses à la consommation. Hein.
Bah, si non, vous la voulez vraiment, ouais, c'est vrai que parfois il faut faire ça. Quoi.
Ouais, pas, non, pas mais il faut pas prendre de crédit, c'est moche.
On est bien d'accord. Voilà. Sauf dans certains cas très précis.
Si, il faut prendre des crédits quand tu sais que tu vas rembourser, c'est tout. Que tu peux rembourser, sinon, effectivement, ils vont mieux pas. Hein. Effectivement, bon, bah voilà, c'était. Bon, il y avait d'autres annonces hein, du State of Play, mais
ouais,
reportez-vous à Gameblog.
En parallèle de tout ça, il y a eu un certain trailer qui
oui,
a été dévoilé.
Bah, évidemment, on allait y venir.
Que vous allez
découvrir. Ouais. Bah écoute, moi j'étais sur le cul, hein, comme d'habitude, hein. The Last of Us 2.
Ouais, on en a pas parlé ensemble encore. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, du trailer qu'on a découvert pendant le State of Play.
Tu sais, moi je suis pas forcément objectif, donc.
Ça alors.
Comme j'aime bien tout ce qui vient de Naughty Dog, et en particulier Last of Us et Uncharted, pour moi, ils font un boulot de malade mental, quoi. Donc, et puis surtout, là, j'ai l'impression que l'histoire a été peaufinée à mort et qu'il va y avoir plein de rebondissements. D'ailleurs, j'ai posté une news le week-end dernier. Avec justement les avis des développeurs sur les démos en question auxquelles tu as joué, les deux premières démos. Et effectivement, ils disaient qu'il y avait plein de trucs qui se passaient, mais qu'ils ne pouvaient pas spoiler en mettant des images justement où les gens allaient comprendre certains trucs, quoi. Donc il peut se passer encore plein de choses. Donc si on parle juste de ce trailer-là qui a été balancé durant le State of Play, bah, comme d'hab, c'est... Je m'attendais vraiment à voir ça et j'ai eu ce que j'ai voulu, quoi. Donc, ce que j'avais envie de voir. Et pas seulement graphiquement, mais je sais pas, au niveau des interactions entre les persos, de l'histoire sous-jacente qu'il y a derrière, on a l'impression qu'il va y avoir plein de trucs, plein de rebondissements, encore une fois.
Ouais, et je me demande si.
Des twists, etc. Donc,
je me demande si c'était pas le trailer pour un peu plus nous
perturber,
nous envoyer dans une direction qui sera peut-être absolument pas le scénario final du jeu.
C'est ce que je me dis aussi, ouais. Parce que c'est vrai que quand on voit ce trailer, on peut se poser la question, alors attends, mais surtout à la fin, là, avec son fameux regard, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est en train de tuer quelqu'un, mais c'est qui? Est-ce que c'est sa copine? Est-ce que c'est Joël? On n'en sait rien, en fait, et on peut partir dans tous les sens, et on sait pas, quoi.
Oui,
mais ça paraît trop simple, parce que...
Spontanément, tu dis que ça va être Dina.
Exactement, tu dis que c'est forcément elle, parce qu'elle est tellement énervée que...
Et que ça va justifier sa quête de vengeance, justement.
Exactement, et ça se trouve, c'est pas du tout elle, en fait, donc... Et là-dessus, je pense qu'ils nous, comme tu vois, t'as raison, ils nous mènent vraiment en bateau et je pense qu'ils nous font partir dans une autre direction qui n'a certainement rien à voir.
Bah, c'est pour pouvoir mieux te choquer le jour
de
la sortie, quoi.
Parce que ça serait trop simple si c'était ça. Parce que je veux dire, là, tout le monde l'a compris, quoi. Enfin, tout le monde potentiellement a compris qu'effectivement, sa nana a été tuée et du coup, bah voilà.
Et tu dis que c'est pour ça qu'on te présente la relation, c'est pour qu'il y ait un attachement.
Exactement.
Et qu'après, il y a une séparation brutale.
C'est tout à fait ça. Ouais.
Alors, j'ai essayé d'en parler à la co-scénariste du jeu, j'ai essayé de la cuisiner un petit peu là-dessus.
Ouais.
Vous aurez l'interview sur Gameblog qui va sortir si elle n'est pas déjà disponible. Et elle me disait, bah, nous, le but, c'est que vous soyez surpris au moment où vous allez lancer le jeu dans sa version finale. Donc voilà.
Surpris et choqué.
Comprenez. Ce que vous comprenez, hein, on verra bien.
Exactement.
Et alors ça, c'était une surprise aussi.
Ah bah Joël qui apparaît, les traits bien tirés.
C'est magnifique, hein. Le jeu est magnifique.
Mais c'est.
Il est très beau.
Après dans le trailer, c'est vrai, ça rend beau. Toi, tu y as joué.
Ouais. Il y a des gens qui m'ont fait la remarque en disant vous n'êtes pas convaincu techniquement, qu'est-ce qu'il vous faut. Il y a des trucs sur le plan technique qui sont largement perfectibles.
Oui, mais ça, je suis d'accord.
Franchement. On s'en tape d'une force par rapport à ce qu'on a vu.
C'est pas vraiment forcément le but.
Parce que la technique, elle a été, on va en reparler après, mais pour moi, elle a été intelligemment mise au service de l'immersion et du gameplay. Et pas juste pour dire, waouh, regardez, c'est beau, vous allez en prendre plein la tronche. C'est pas juste ça, et c'est ce qui le rend pour moi intelligent. Un peu comme un jeu qui commencerait aussi dans La Neige à Cheval.
Ouais, ça me rappelle un jeu, ça.
Qui mettait la technique, pour moi, au service de l'immersion et de l'histoire, plus que la vitrine technologique.
Bien sûr, c'est évident. Et pourtant, quand tu regardes ça, c'est magnifique, quoi.
Et c'est pourtant très
là,
joli.
Là, t'es quand même bouche bée. Je suis désolé, c'est comme dans Red Dead. Là, tu fais, ah ouais, quand même. T'as envie d'y être et tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de me balader à cheval. Et
alors, c'est marrant parce que moi, j'ai été vachement soulagé quand on a vu le trailer, parce qu'on l'a vu après avoir joué aux deux démos dont on va vous parler juste après.
D'accord.
Et à la fin de la démo, justement, ça se termine sur Joel qui chope Ellie et tu le découvres à la toute fin. Et là, d'accord, je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'est une surprise quand même, je le dis, oui, je le dis pas, et en voyant que le trailer se finissait aussi sur son apparition, là tu te dis, ok, on est sauvé, c'est bon, tout le monde sait qu'il va être présent à un moment ou un autre dans le jeu, tout va bien.
Mais est-ce qu'elle n'est pas en train de rêver? Est-ce que c'est pas un flashback? Est-ce que c'est machin?
Est-ce que c'est pas un flashback?
On n'en sait rien, quoi.
Parce que on en a discuté sur place avec quelques confrères, la longueur des cheveux ne semble pas être la même. Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est avant?
Ouais. Ça peut être tout n'importe quoi.
La co-scénariste Ellie Gross, elle a aussi écrit deux épisodes de Westworld, la première saison. Donc, la première saison de Westworld, elle s'amuse à
balader tout le monde,
à vous paumer parce qu'elle fait se chevaucher les périodes temporelles sans jamais vous le dire. Donc, est-ce qu'il va pas y avoir un twist
dessus, ouais.
dans le même style?
Le premier
justement,
jeu déjà se passait sur plusieurs époques, périodes de l'année différentes.
Oui, mais dans un ordre chronologique.
On avait pas mal d'ellipses, de choses comme ça.
Oui, mais dans un ordre chronologique. On allait toujours de l'avant au fur et à mesure, parce qu'il fallait que le personnage d'Ellie aussi se construise, qu'elle prenne de l'autonomie pour justement pouvoir se débrouiller en hiver, etc. Là, on se demande si, ouais, effectivement, on va pas peut-être à un moment donné comprendre ce qui s'est passé à travers des flashbacks, justement.
Exactement, ouais,
qui nous induiraient peut-être en erreur. Enfin, il y a encore beaucoup d'interrogations suite à ce trailer du State of Play.
Est-ce qu'il m'avait aussi un peu... pas choqué, mais j'ai vu une grosse différence des clickers, là ils sont complètement différents, quoi. T'as carrément des mini boss et des trucs comme ça maintenant, apparemment. D'ailleurs, c'est ce qu'expliquait Neil Druckmann dans la vidéo justement des développeurs que j'ai balancé le week-end dernier, où effectivement il disait qu'il y avait des mini boss, que les ennemis étaient presque hiérarchisés quelque part. Enfin, c'était déjà le cas plus ou moins avant, mais là t'as l'impression d'avoir des persos un peu basiques de base, enfin de un peu basiques au niveau des ennemis, et que plus t'avances dans le jeu, plus t'as des trucs un peu plus costauds, etc. Et t'as un moment donné, t'as un perso où tu te bats, c'est tout rouge, etc. Enfin, il est énorme, tout boursouflé. Et je crois bien que ça, c'est un des mini boss dont il parlait. Donc,
d'accord.
Et j'ai l'impression que là-dessus aussi, ils ont vraiment amélioré un peu le concept des ennemis.
Bah, ils se sont attachés à rendre le truc assez cohérent. Parmi les humains, en fait, ils se sont attachés à ce que chacun d'entre eux ait un tout petit peu de background, même si c'est de lignes, tu vois. Mais ouais, le type que tu vas croiser dans le fond du décor, il s'appelle Jasper.
Il a un nom, une histoire.
Il a un nom, une toute petite histoire. Et du coup, si jamais tu le butes.
Salut, moi c'est Jasper, je me suis fait buter.
Non mais, voilà, mais si tu le butes et que son pote était pas loin, quand il va le trouver, il dit non, putain, Jasper, tu vois. C'est tout bête, mais ça rend le truc assez cohérent et assez humain finalement.
Humain,
parce
que
tu vois ton pote se faire descendre, tu vas pas juste dire oh non, tu t'exprimes, tu vas un peu plus loin que ça. Mais par rapport aux clickers, moi dans les démos auxquelles j'ai pu jouer, en fait ils m'ont pas trop fait flipper. Parce que comme tu connais leur fonctionnement, si t'as joué au premier, tu sais très bien comment tu vas les descendre. Moi, je les ai butés tranquillement en prenant vraiment mon temps.
Oui, mais ça, je pense que c'est que la démo dans ces démos-là.
En y allant mollo.
Ouais, mais à mon avis, après, je pense qu'il y aura des choses un peu plus costauds, quoi.
En tout cas, ouais, pour les ennemis de base, j'ai réussi à temporiser parce que voilà, on sait. En tout cas, si on a joué au premier, comment il faut défaire les clickers, il faut y aller avec beaucoup de précautions.
Ceci dit, dans le premier, il y avait aussi, j'allais dire une hiérarchie, pas une hiérarchie, mais t'avais des clickers que tu devais buter avec. Avec un gameplay parfois différent,
qui était un petit peu plus balèze.
Voilà,
mais alors, la vraie nouveauté en termes d'ennemis, c'est ce que Poufy est en train de vous montrer.
C'est ce qu'on voit à l'écran là.
Les ennemis les plus flippants de cette démo, ce sont les chiens.
Les yinches, parce que eux, pour le coup, ouais, c'est ça, ils ont un odorat de malade et du coup.
Putain, ils te suivent à la trace. Ouais. Dès qu'ils te repèrent, dès qu'ils sentent que t'es pas très loin, ils vont commencer à le manifester. Donc en plus, tu sais qu'il est pas loin, qu'il va te choper, te saisir à la gorge, et qu'en plus son maître est averti qu'il s'est passé quelque chose, parce que le comportement du chien change à ce moment-là. Donc le type se dit, quoi, t'as reniflé un truc, il y a quelqu'un.
Donc hop, t'as plusieurs personnes en alerte contre toi, quoi.
Il sort son arme, s'il y a un pote pas loin, il va lui dire, fais gaffe, fais le tour de la maison, parce qu'il a senti un truc. Donc d'un coup, ça devient super oppressant. Et quand tu utilises cette espèce de sixième sens, tu sais, quand tu cliques sur le stick droit où tu vois les gens, bah tu vois la trace que t'as laissée. Donc tu vois bien jusqu'où le chien va réussir à remonter. Ouais. Donc il faut que avec Ellie tu bouges très vite tes fesses sans te faire griller par tous les autres qui patrouillent aux alentours, parce que là en l'occurrence c'est la deuxième démo qui était véritablement centrée sur le gameplay et plutôt le gunfight. Et du coup tu véritablement t'es en panique quand t'as un chien qui commence à te renifler. Et puis le problème c'est
comment
que
vrai, quoi, c'est...
comment tu t'occupes du duo, parce que t'as le chien et t'as le maître. Tu
cherches en force.
Oui mais si tu butes l'un, l'autre va forcément ou sortir son arme
sans force.
Ou pas. Ouais, mais il y en a d'autres au loin. La zone
dans
laquelle on était,
monde, du coup, après.
C'était vraiment The Last of Us partout. En l'occurrence, la démo de gameplay qui était en banlieue de Seattle, c'est n'importe quel passage entre guillemets de The Last of Us premier du nom, avec des nouveaux ennemis, plein de trucs comme ça. Mais les mécaniques sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes, enfin, ou dans le dos de tes ennemis, ou tu les butes les uns après les autres. Mais
t'as
une ouverture entre guillemets restreinte. Le jeu te pousse à aller dans une certaine direction.
Bien sûr.
Il faut la jouer infiltration. Les herbes hautes.
Les herbes hautes, j'adore. Moi.
Elles te protègent visuellement, mais une fois de plus, ton odorat.
Le chien,
il est toujours derrière toi.
D'ailleurs, je suis persuadé qu'à un moment donné, tu devras perturber son odorat avec quelque chose, je sais pas quoi. Peut-être que tu peux récupérer, customiser une arme avec ça, ou je sais pas quoi.
T'es allé de la merde sur les fringues.
Non, mais peut-être. C'est pas bête, mais il peut y avoir. Enfin, on sait que les mécaniques, elles sont là pour évoluer,
oui,
surtout dans un jeu Naughty Dog. Donc
là, ils montrent pas tout, c'est une certitude absolue.
Mais du coup, ça t'amène à réfléchir de façon vraiment différente. Et alors, à partir du moment où tu récupères l'arc, bon, tout va mieux parce que tu peux descendre des adversaires sans faire trop de bruit. Parce que ça, c'est pareil, c'est un truc super bien fichu. La banlieue dans laquelle on est, elle est désertée, mais elle est en proie justement au... Alors, c'est le Washington Liberation Front, qui est cette espèce de milice qui a décidé d'investir les lieux et de buter tous ceux qui ne seraient pas de leur bande. Y a un silence de mort. Évidemment, dans les rues de cette ville. Du coup, si tu commences à utiliser ton arme à feu,
Là tout le monde intervient et
à faire péter un cocktail Molotov ou quoi, ça résonne. Tu entends le son qui se propage au loin. Tu sais que tout le monde va être averti et qu'ils vont se rameuter et que ça va être encore plus difficile de réussir à t'en sortir. Avant qu'on y joue, Druckmann justement faisait une présentation et il nous disait: n'hésitez pas à vous planquer, à faire demi-tour si jamais la situation commence à partir en live, parce que vous barrer, ça peut être une bonne solution pour laisser les choses se calmer et essayer de revenir après à l'attaque au fur et à mesure.
Et puis voilà, c'est ce qu'on voit aussi en vidéo, là, tout le monde peut regarder maintenant. Quand elle rampe, ça c'est un nouveau truc. Elle peut aussi tirer allongée par terre.
Oui.
Ça c'est pareil, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc, moi, le fait de ramper, franchement, j'ai jamais compris pourquoi dans les jeux vidéo traditionnels, on mettait pas cette fonction. J'ai jamais compris. Alors que c'est pour moi, c'est une évidence absolue, quoi. Surtout dans les jeux de. Dans les jeux de
surtout
là,
quand tu veux
survivre.
Sauver ta peau, oui.
Mais oui, c'est ça. J'ai jamais compris pourquoi ça n'existait pas.
Bah, c'est des animations
enfin,
en plus.
Ouais. Oui, c'est sûr. C'est vrai que ça demande des ressources et de l'engagement et voilà, du travail en plus. Mais c'est tellement évident, quoi, qu'il fallait l'ajouter, que voilà. Merci. Merci d'avoir ajouté cette fonction naturelle, en fait, tout simplement, hein, quand t'es un être humain. Voilà, tu rampes pour te planquer. Voilà.
Et ce qui est bien fichu, c'est que quand t'es à terre, si tu rampes pour te planquer ou que tu t'es fait mordre par un chien et qu'il t'a foutu par terre, tu peux dégainer et essayer de viser, mais c'est super difficile.
C'est très dur. Mais tant mieux, c'est quand même
vraiment, 3 fois sur 4, tu vas rater ta cible. Et c'est hyper cohérent.
Et c'est logique.
C'est logique, t'as pas la bonne posture pour prendre ton arme, etc. Enfin, il y a plein de choses vraiment
qui sont prises en compte,
qui sont logiques, et c'est là où je parlais justement que l'aspect technique pour moi est plutôt au service de l'immersion et du gameplay. Ça se ressent dans tout. J'en ai parlé dans la preview vidéo, mais écrite aussi, je crois. À partir du moment où tu te couches, où tu sors une arme, toute l'attitude corporelle d'Ellie va changer. Si on se balade, la première démo sur laquelle on n'est pas encore revenu, mais qui était plutôt une démo narrative et qui resituait un petit peu le contexte dans lequel allait s'ouvrir le jeu, on a une Ellie qui est plus détendue, qui se balade, alors qu'elle est un petit peu sur ses gardes parce qu'elle patrouille quand même dans ce monde post-pandémique, mais on la sent plutôt à l'aise. Et dès qu'il y a une situation à laquelle elles sont confrontées qui leur fait penser que il y a peut-être des clickers dans le coin, tout de suite elle se raidit, elle sort une arme et on voit que l'attitude est vraiment vraiment différente. Il y a plein de choses comme ça qui sont très 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 intéressantes. Alors tu vois, grimper sur les toits, je l'ai pas fait par exemple. C'est pas un truc auquel j'ai pensé.
Tout à fait. Ouais, on a l'impression que les situations sont quasiment infinies, quoi. Autant, enfin, tout ce que tu vois à l'écran, bah, tu peux le faire.
Oui, parce que tu vas avoir une variété d'approches. La démo qu'on a vue tout à l'heure montrait que le joueur se barrait en courant. Ça peut-être être une possibilité pour s'échapper de cette zone.
Exactement, ouais.
Et alors du coup voilà, dans l'autre démo auquel on a pu jouer, j'ai pu observer plein de choses hyper intéressantes aussi, parce que c'était, j'imagine, plutôt au début du jeu, où on avait Ellie en compagnie de Dina, donc cette jeune fille qu'on l'avait vue embrasser pendant la conférence Sony de l'E3 2018, je vais y arriver.
Ouais.
Et là, en l'occurrence, elle se baladait à cheval, et ce qui est fantastique, c'est la narration de Naughty Dog et surtout de Druckmann, c'est qu'en l'espace de quelques échanges, quelques lignes de dialogue, ça t'a posé un nombre de problématiques.
Ouais,
tu sens qu'il y a une tension amoureuse et ou sexuelle entre les deux. Tu sens qu'elles ont eu des expériences passées, mais que du coup, elles veulent pas trop les mettre sur la table parce qu'elles sont dans un moment, une phase de séduction. Ellie mentionne Joel, comme quoi ça va bien, elle regarde des films avec lui. Dit, bon, donc, ils sont toujours potes, tout va bien. Et en même temps, elle découvre une espèce de planque d'un type dont Dina parlait juste avant. A priori, elle a eu une aventure avec ce Eugene qui, en fait, dans les environs de la ville de Jackson, où tout le monde s'est réfugié, c'est la ville de Jackson.
C'est le gars un peu asiatique qu'on voit au début, c'est ça ?
Alors moi, je ne l'ai pas vu.
Non ? On l'a jamais vu, lui ?
J'ai pas vu Eugene. Alors, il était peut-être dans le trailer.
Oui, il semblait qu'il était dans le trailer, mais il y a longtemps. Hein,
dans la démo, il est évoqué, mais on ne le rencontre pas, en fait.
Je crois que c'est dans le premier trailer qu'ils ont balancé il y a longtemps.
Un vieux dessinateur de manga érotique.
Ah, ok,
c'est
super.
Vrai
okay. Dans les années 80-90.
Ils sont très nombreux. Mais voilà, elles parlent de plein de trucs. Elles évoquent le fait que, justement, un type est mort il n'y a pas longtemps de vieillesse en se disant « Putain, c'est dingue. Tu te rends compte la chance qu'il a eue ?» Bah oui, forcément, dans un monde pandémique comme ça, mourir de vieillesse, c'est réservé à véritablement une poignée. Et voilà, en quelques lignes de dialogue, t'as un nombre de situations qui sont évoquées hyper rapidement et de manière assez subtile. Là, on voit qu'Ellie porte son masque. On sait qu'elle en a pas besoin puisqu'elle est immunisée.
Exactement.
Donc, ça veut dire que depuis toutes ces années, elle a gardé son secret, qu'a priori personne d'autre que Joel et elle n'est au courant. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et tu parlais du pétard qu'elles éclataient tout à l'heure, qu'on voyait au début du trailer. Justement, à force d'exploration dans ces bâtiments qu'on voit là, que Poufy vous montre en image, elles finissent par tomber sur la planque du mec en question. Le type avait un générateur dans un coin, et là, elles allument la lumière, et plantation de ouf. Le mec avait cultivait mais des plants de weed par kilotonne.
De cabanis.
Et en plus, elles tombent sur une pile de VHS, des vieux pornos avec un magnétoscope, donc en fait c'était la planque du mec où il pouvait venir fumer de la weed et se faire plaisir, tu vois. Et tu
ça
dis
me
bah
fait
ouais.
penser à une certaine scène dans Ali G, ça.
Ah, pas vu.
Ouais,
bon, ça pourrait être chez n'importe qui, tu me diras. Ouais, mais...
Même chez Johnny One.
Mais voilà, une fois de plus, bah, tu dis effectivement c'est la fin du monde, mais quand même, bah, y a un type qui avait envie de s'amuser un petit peu, et il a fait ce qu'il fallait pour.
Ouais.
Et du coup, bah, elle décide de fumer un pétard, et c'est à ce moment-là qu'elle s'embrasse à nouveau en reparlant du baiser justement qu'elles ont échangé hier. Et c'est là que tu comprends que la scène qu'on avait vue en 2018 pendant laquelle elles dansent et elles s'embrassent, c'était donc a priori la veille, et que bah, dans cette ville de Jackson pour l'instant, entre guillemets, tout va bien puisque l'humanité vit
à peu près normalement,
à peu près normalement. Dans le trailer que vous avez vu, il y a des boutiques a priori quand on se déplace à cheval dans la ville. Ça on l'a pas du tout vu, hein. Ça faisait pas partie de la séquence jouable, mais on voit qu'il y a des magasins et ce genre de trucs, donc des commerces, enfin la vie de tous les jours,
tout à fait.
Donc vraiment plein de trucs très très intéressant.
Ah, ça peut partir dans tous les sens, effectivement. Mais je pense qu'à la fin, tout ça était un rêve, mais bon, c'est mon opinion.
Et Naughty Dog nous a dit par l'intermédiaire de Neil Druckmann, avant qu'on y joue, que c'était de toute leur production le jeu le plus ambitieux à tout point de vue. Donc je pense qu'il faut s'attendre à une histoire énorme. Et ils ont même lâché le multijoueur pour se concentrer justement uniquement sur le solo. Donc
tout à fait.
On peut imaginer que ça va être quelque chose de très 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 conséquent, de très dense. Et ben forcément,
c'est ce qu'on espère en tout cas.
On n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir reposer les mains dessus.
Ouais, disponible donc le 21 février 2020. Et là, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui vont prendre des congés.
C'est pas les vacances à ce moment-là.
Ça
dépend pour qui.
Ça dépend pour qui, ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, parfait, parfait, mon cher Thomas. Voilà, c'était pour le State of Play.
Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a des impressions écrites très
plus
complètes
vidéo,
sur Gameblog. Voilà,
du gameplay,
donc,
machin.
Et une interview qui arrive très prochainement.
Qui arrive ou qui est arrivée au
ou
moment
qui est déjà arrivé,
où on diffuse le podcast, tout à fait. Eh bien, c'est le moment de passer au thème numéro 2, mon cher Johnny One. Exactement. Mais de quoi allons-nous parler dans ce thème numéro 2 ?
Des Dark Souls.
Des Dark Souls.
Ou plutôt de l'armée des Dark Souls-like là, qui débarquent
en
ce moment.
T'en as fait un paquet, tu
j'en ai fait un paquet là, ces derniers jours. Là.
Ça va, t'es pas trop gavé, c'est bon ?
Bah écoute, non, on en redemande. Hein.
Ouais. Voilà. T'es un fan de ce genre,
ouais,
de toute façon.
Ouais, ouais, vraiment.
Donc t'as pu voir Nioh 2, The Surge 2,
The
et
Surge
Code 2 Vein que t'as
et
testé.
Code Vein, voilà. Ouais, donc deux tests, une preview.
Exactement.
Alors le premier que j'ai vu, c'était il y a une dizaine de jours, c'était Nioh 2.
Pour le
Alors,
TGS.
J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était la démo du TGS, mais moi je suis pas allé à Tokyo, je suis resté à Paris. Et à Paris, bah, j'ai pu tester la
Exactement.
Démo du TGS, voilà. Donc ça c'était formidable.
Sans faire la queue, tranquille.
Pendant plus longtemps qu'au TGS
sans faire
en
la
plus.
Queue, plus longtemps qu'au TGS. Alors ça c'est assez rigolo parce que c'était une petite démo. Donc c'est la même que le TGS, hein, vraiment. Mais on a eu droit à un petit cheat code qui nous a enlevé la limite de temps qu'il y avait sur le salon. Mmh. Donc je vais pas donner le cheat code. Hein. Tout le monde me rappelle plus.
Tu l'avais en tête quand t'es revenu du rendez-vous.
C'est pas très grave ça.
Donc il y avait un petit cheat code pour enlever la limite de temps. Et là à l'image vous pouvez voir un premier boss, un espèce de chien géant. Donc qui était le boss de
c'est
la...
Pas un cheval,
c'est un objet, c'est un dragon.
Non, c'était pas un chien, pardon, c'était un cheval.
Ouais,
cheval
on n'a pas les mêmes
donc
chiens
un,
sinon.
Oui, non mais... Donc un cheval géant. Et là vous voyez le boss de la deuxième démo qui elle aussi était une démo assez exclusive puisqu'elle était accessible via un cheat code encore une fois. Voilà.
Décidément.
Donc ça c'était assez rigolo. On avait donc vraiment un peu plus de chance que les joueurs japonais. Bon bien sûr nous n'étions pas au Japon mais nous avons pu jouer plus longtemps qu'eux et à un deuxième niveau.
C'est alors, beaucoup plus fluide que le premier a priori.
Alors moi j'ai joué sur PS4 Pro, j'ai pas spécialement vraiment eu le temps de me rendre compte de la technique.
Je sens le perso moins raide.
Bon, oui et non, j'ai envie de te dire, ça reste quand même un gameplay très technique, moins raide, je ne sais pas. Donc ça, les couleurs sont très chatoyantes de tous les côtés, hein. C'est très beau, il y a un design qui est vraiment formidable de Japon féodal, vraiment super stylé. Les boss, on va là encore avoir droit à des designs assez fous, je pense. Donc les deux qu'on a vus, le premier c'était un cheval géant avec une grosse épée, et le second qu'on a vu c'était une espèce de Neko Girl à moitié sexy, à moitié fantôme, qui roulait sur les mêmes roues que les squelettes dans les catacombes de Dark Souls, voilà. Donc une espèce de mix
c'est
improbable,
classe.
Tout à fait improbable. Mm. Donc niveau du design, ça va être très très beau, hein, comme vous pouvez le voir, là, les cerisiers, rose, tout ça, la nuit, c'est beau. Hein. Par contre, en termes techniques, là, je t'avoue, j'ai pas vraiment eu le temps de vraiment regarder ce que ça donnait. J'ai vu un tout petit peu d'aliasing, mais ça, c'est parce qu'on jouait sur un écran 4K à trop près, je pense.
Ouais.
niveau fluidité, il y avait plusieurs modes disponibles en fait. Donc comme dans le premier niveau, du movie qui va te permettre de voir le jeu soit en 4K. Alors là il y a deux modes différents. Donc 4K avec framerate stable, 30 FPS.
Oui,
okay.
Il propose toujours ça à chaque
ou,
fois.
Putain, t'invoques Amaterasu.
Ouais. Ou framerate variable qui te permet de dépasser cette limite de 30, mais bon du coup t'as un framerate variable. Moi j'ai préféré jouer en action, donc qui est pas que du 4K, c'est du 1080p moi du
mais
coup
par contre,
j'ai eu droit.
Est...
Mais par contre fluidité exemplaire, 60 FPS constant. On nous promet la même chose sur PS4 Fat avec du 60 FPS constant mais en 720p dans
ce
mode action. Voilà. Donc là oui en effet sur l'image vous pouvez voir une petite nouveauté de gameplay du jeu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se transformer en yokai et gratter un quart, un tiers de barre de vie du boss, ça va pouvoir bien nous sauver la life à certains moments. Si on veut pouvoir en voir le bout. On n'a pas vu grand chose, on a vu que deux niveaux pour l'instant avec deux boss. Donc les boss ils étaient super chauds, il va falloir
comme toujours
des dizaines et des dizaines d'essais avant de comprendre les patterns, avant de savoir. Moi par exemple là le boss cheval il avait une attaque, il te tape trois fois dessus, il charge et pram pram pram. Alors soit t'arrives à l'interrompre avant qu'il lance son attaque avec pareil encore une nouvelle mécanique qui est une espèce de coup chargé qui annule les coups chargés des adversaires.
Qui prend la prio.
Voilà, exactement. Mais par exemple, le troisième coup d'épée, je n'ai jamais réussi à l'esquiver puisqu'il est, il est guidé en fait. Il te retombera sur la gueule quoi qu'il arrive, même si tu fais une esquive.
T'as pas trouvé comment
Non, j'ai pas encore trouvé la parade contre lui, tu vois. Donc il va vraiment falloir insister, y aller et puis accepter de mourir parce que le jeu est super dur. Hein. Même là, on voit par exemple à l'image des mobs un peu costauds, ceux qui ne réapparaissent plus qu'une fois que tu les as tués. Bah, même eux, ils peuvent te poser quelques problèmes et dans l'exploration d'un niveau, tu vas pouvoir mourir, même rien que dans l'exploration, déjà plusieurs fois. Là, les niveaux qu'on a vus pour l'instant, les deux étaient petits. Voilà, donc on n'a pas spécialement vu si le level design allait être vraiment intéressant. Nioh 1 avait plutôt bien réussi dans ce sens-là. avec ses niveaux qui étaient indépendants, mais qui arrivait à reproduire un petit peu ce que proposait Dark Souls, avec des raccourcis assez intelligemment placés, des détours, des retours, des recoins. C'est assez stylé. Là, on va pas pouvoir trop en dire pour l'instant sur Nioh 2, mais en tout cas, en termes de gameplay, ça va être aussi dur et aussi bon qu'avant, ça c'est sûr. En termes de design aussi, l'univers va évoluer un petit peu, puisqu'on va créer son héros dorénavant. On n'aura plus affaire juste à William, on pourra prendre un homme ou une femme, voilà. Donc l'aventure, est-ce qu'elle sera plus RP ou pas, on sait pas vraiment, mais en tout cas ça nous a bien donné envie de nous pencher sur ce jeu là voilà. Donc ça c'était le premier auquel on a pu jouer
tout
ces derniers
fait.
Temps le second
voilà,
c'est The Surge 2
et ensuite Surge 2 que tu as testé donc
voilà, exactement.
Il y a quelques temps sur Gameblog,
voilà. Changement d'ambiance,
pas totalement différent, donc là on quitte le Japon féodal et ce coup-ci on se retrouve dans le turfu, un espèce de turfu déglingos post-apocalyptique où notre héros se retrouve amnésique, bien évidemment, enfermé dans une prison au début du jeu, et il va réussir à s'échapper de cette prison et se retrouver dans la ville de Jericho City qu'il va devoir explorer et libérer de tous les méfaits qui s'y trouvent. Alors, donc là, on est sur du Dark Souls-like assez classique avec la formule attaque, endurance, il va falloir gérer son endurance, les parades, les gardes, etc. L'esquive, notamment, surtout, qui va beaucoup servir dans The Surge. Et petite particularité. Dans les combats, quand on va se battre contre des ennemis, on peut viser une partie de leur corps. Par exemple, si je vise le bras, je vais pouvoir looter l'arme que mon ennemi tient dans sa main ou un petit bout d'armure. Voilà. Mmh. Et après, il me suffit de farmer les bras pour pouvoir améliorer mon arme ou ma partie d'armure de bras.
Et donc, tu peux orienter ton loot un peu sciemment en fait.
Alors,
en
termes de level up, ça c'est assez dirigiste en fait. En vrai, tu vas looter toujours les mêmes pièces qui vont te servir toujours à améliorer les mêmes trucs.
Il t'amène vers les choses
ouais,
communes,
voilà,
c'est ça.
Le loot est assez
tout le monde a ça à la
linéaire.
Fin.
Voilà. Mmh. Tout le monde va avoir les mêmes trucs.
Les mêmes trucs à la fin.
Voilà, il n'y a pas d'objets super, vraiment.
Oui, d'accord. T'as pas des milliers de spécificités en fonction des ennemis.
Il y en a, mais ça reste assez limité en termes de leveling en fait le jeu. C'est surtout le loot qui est original. Donc les combats sont pas mal, l'aspect RPG comme je le dis il est
oui,
assez
c'est
pas le plus extraordinaire, c'est à dire par exemple quand tu passes un niveau tu ne choisis que 3 caractéristiques, que dans un Sekiro ou dans un Bloodborne tu as le choix entre 10 caractéristiques différentes. Là ici c'est vie, endurance, batterie, voilà,
c'est bien
basta.
Pour ceux que ça gonfle comme moi d'avoir trop de trucs RPG
ouais, là l'aspect RPG il est assez simpliste,
c'est plus pour moi ce genre de truc.
Voilà, donc comme je te dit le level up, tu vas pas devoir te farcir des heures de farm à la recherche d'une petite pierre super rare qui drop une fois tous les 15 ans. Non, là c'est t'as des grosses pièces générales qui te servent à améliorer tout ton stuff. Voilà, le level up est assez linéaire. Par contre, là où le jeu le sera moins, même si c'est vrai que dans sa progression il l'est, c'est au niveau du level design. Alors, ça c'est quelque chose qu'on avait pas trop aimé dans le premier Surge, avec des environnements qui se ressemblaient tous. On était soit dans le désert, soit dans des complexes industriels, tous ressemblaient, on se perdait en permanence. Là, il y a de vrais efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Donc déjà, au niveau des décors, on est dans une ville futuriste, mais ville futuriste avec différents degrés de destruction, tout simplement.
Putain, il y a des campagnes des
on
fois.
On va avoir des... Ouais, il y a même une
un
forêt avec des... Il y a une forêt avec des petites collines et tout.
Il y a enfin, des voilà. quartiers qui ont été plus ou moins épargnés, en fait.
Ouais, voilà, c'est plus ou moins ça. Puis les quartiers plus ou moins riches, genre, il y a un moment, tu te retrouves, t'es sur la 5ème avenue, quoi. Et elle a un peu moins pété que le reste de la ville. Il y a le port, enfin voilà, il y a pas mal de décors différents, et là où c'est très fort, c'est que, en fait, on se retrouve sur des petites zones indépendantes. Alors, il y a une grande zone principale, mais qui va être découpée en plus ou moins secteurs, avec plusieurs petites zones tout autour, donc ça va pas être aussi interconnecté qu'un Dark Souls par exemple, qu'un Lordran qui avait énormément de verticalité. Là ça va être des zones un peu séparées les unes des autres, mais par contre l'exploration elle est vraiment géniale parce qu'en fait les niveaux sont conçus de façon très intelligente avec beaucoup de verticalité.
Mais j'aime bien le design moi de l'ensemble, je trouve
ouais,
ça
ouais,
plutôt
non,
pas
c'est
mal
cool,
hein.
C'est l'univers futuriste et tout
je trouve
c'est
ça
séduisant,
moins
c'est
sexy
pas mal, hein.
que l'univers japonais médiéval qu'on a vu juste avant
après,
dans
chacun
Nioh 2.
Sa cam,
non,
hein,
ouais, ouais, non, mais moi je préfère plus ça tu
mais voilà justement c'est marrant parce que moi visuellement il m'attire pas du tout de Surge 2.
Ouais, c'est plus
pour moi
propre,
c'est trop, pour moi
lycée, ouais.
Nioh c'est trop bordelé que j'aime bien quand c'est un petit
ouais,
peu
ça, c'est
carré
un peu, lycée,
clean,
ouais.
un peu plus clean et lisse ouais.
Alors, est-ce qu'il n'est pas du coup un peu plus accessible, The Surge 2, dans la grande famille des
Souls-like? Je termine sur le level design pour dire que donc les niveaux, c'est des petites zones, des petites cartes séparées en plusieurs morceaux, mis à part la carte principale, même si on peut quand même la découper en 3 ou 4 parties différentes, en vrai, elle aussi, même si c'est vrai qu'elles sont reliées sans temps de chargement. Les autres, il y a des petits temps de chargement. L'exploration dans ces petites zones, elle est vraiment plaisante parce qu'il y a des recoins, des coins et des recoins et des ruelles et des... Enfin, il y a vraiment de l'exploration à revendre qui va te récompenser en plus avec des petits items assez intéressants. Et les raccourcis sont super surprenants. Il y a vraiment à des moments où tu te... j'étais là, je reviens ici. Il y a même des raccourcis derrière les raccourcis, genre il y en a deux qui s'enchaînent. Genre tu fais un premier tour, tu fais ah ouais, je suis revenu là, puis tu repars faire ton tour. Ah ouais, ok, je suis revenu là. Enfin, c'est là-dessus, on a vraiment été assez séduit. Donc, The Surge 2, c'est un gameplay qui est pas mal, qui est alors difficile, oui. Hein. Tu vas mourir, hein. Vas mourir un certain nombre de fois. Les boss sont coton. Il y a des pièges un peu partout pendant les phases d'exploration. Le gameplay est super nerveux et super rapide, ce qui veut dire que c'est ultra traître. Tu fais un excès de confiance. Un mob de
t'es coupé en
un
quatre,
peu
quoi.
Un peu de level élevé, paf, il t'a mis 3 coups, t'es mort, c'est fini, on remballe. Il y a des petites spécificités au niveau des mécaniques Dark Souls, comme par exemple le fait que tu perdes ton expérience par terre quand tu meurs. Là, il y a toujours cette mécanique là, et là où c'est vicieux, c'est que là, ce coup-ci, tu n'as qu'un temps limité pour aller la récupérer.
Et donc il faut que tu rushes dessus si tu veux.
Mais en contrepartie, il y a des petits équilibrages. Par exemple, tu peux faire exprès de mourir dans la zone du boss pour dropper ton paquet d'expérience. Ensuite, tu vas farmer des ennemis pour augmenter le chrono, parce que quand tu tues un ennemi, ça augmente le chrono de temps de récupération de ton expérience. Et en fait, le truc, c'est que tant qu'elle reste au milieu de l'arène du boss, elle te régène ta vie. Voilà. Donc tu peux t'en servir comme d'une espèce de béquille, une potion de vie supplémentaire
pendant
le boss fight par rapport aux 3 pauvres potions que t'auras.
Putain, c'est complètement cheaté, ça.
C'est un peu cheaté.
C'est pas grave, c'est super dur. Donc,
c'était pensé ou c'est du gameplay émergent, à ton avis?
Alors, est-ce que les devs ont pensé qu'on allait cheater en s'en servant pendant les combats de boss? Je ne sais pas, je pense oui, c'est fait exprès. Ça te fait vraiment une béquille supplémentaire, c'est pas mal.
Mais ils se sont dit que c'était dur en soi, donc.
Faut faire gaffe, parce qu'il faut pas mourir une seconde fois.
Sinon, tout disparaît.
Tout disparaît.
Voilà. Mais j'aime bien leur punchline, you are what you kill. Ça, c'est exactement
C'est ce que c'est vrai que tu fabriques un peu comme dans un Monster Hunter où tu découpes sur les parties de ton adversaire ton loot.
Bah, on voit beaucoup de découpage dans la vidéo.
Là, il y a que ça.
Les membres volent dans tous les sens.
Ils sont tous moitié robot, moitié.
Alors, il y a pas mal d'armes différentes. Il y en a un peu plus que dans le premier. Et elles ont toutes plusieurs animations d'exécution en fonction de l'endroit où tu vises et de l'arme que tu possèdes.
C'est du Mortal Kombat RPG Dark Souls.
Ouais, c'est assez gore. Ouais. Et c'est dur. Les amateurs de Dark Souls auront leur petite dose de challenge et de sensation d'accomplissement une fois qu'ils auront réussi à vaincre un boss super chaud sur lequel ils auront passé toute la soirée. Voilà.
Putain, c'est vachement encourageant ce que tu dis là. Bon, j'ai mis 5 heures à passer le boss, super.
Ouais, mais bon, c'est un peu les canons du genre, quoi.
Ouais, voilà.
Sais dans quoi tu t'embarques.
Tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sais que tu vas mourir, tu sais que tu vas galérer, tu sais que tu vas devoir faire le run parfait contre le boss. Enfin voilà. Et franchement, vraiment pas mal.
Moi, j'aime bien le design, j'aime bien les explosions, j'aime bien les découpages de membres.
Un bon gameplay.
Sauf que ça bouge bien en plus.
Level design. Les seuls deux reproches qu'on pourrait éventuellement faire au jeu, c'est une technique qui tout saute un peu sur PS4 Pro. On a des ralentissements, choses comme ça.
La vidéo qu'on nous passe, moi je trouve qu'il n'y a pas de ralentissement. Mais bon, après,
ouais, mais c'est peut-être du PC. Sur console, techniquement, c'est pas extra. Ouais. Sur PC, de ce que j'ai cru comprendre, il faut une bonne machine quand même pour le faire tourner, malgré la taille du jeu qui reste assez. Alors, il fait que 10 gigas à peine sur Play. Ouais. Et l'autre reproche qu'on peut lui faire, c'est éventuellement. Toi, ça te plaît, Trace, tu vois, mais moi moins. Aspect RPG pas super développé, voilà, un peu vraiment, et une progression peut-être un poil linéaire, mais à côté de ça, il a tout ce qu'il faut pour contenter les amateurs de Dark Souls, et c'est mieux que le premier épisode, vraiment. Voilà. Donc les Allemands là qui ont sorti ce jeu Deck 13, c'était leur troisième jeu, c'était la troisième fois qu'ils s'aventuraient dans le Dark Souls like. Les deux premières fois, c'était pas bien, la deuxième fois c'était bien mais sans plus. Là c'est bon, ils y sont arrivés.
Ils ont compris les codes.
Voilà, exactement. Ils y sont.
Le prochain c'est la perfection.
Le prochain, ils font mieux que les Japonais, puis voilà, c'est fini. Fin du game.
Et on ira interroger Inafune.
Exactement.
Pourquoi pas.
Fin du game. Parfait. Et puis il y en a un troisième, Dark Souls.
Troisième Dark Souls qui débarque. C'est Code Vein. Alors Code Vein, c'est assez particulier parce que c'est Bandai Namco, donc l'éditeur de Dark Souls sur les derniers épisodes, sur la dernière génération de consoles PS4 et Xbox One. C'est eux qui éditent Dark Souls. Alors c'est pas eux qui font Sekiro, c'est pas eux qui font Bloodborne, mais ils ont Dark Souls quand même, excusez du peu. Et ben ils viennent manger une part de leur propre gâteau. Puisque ils ont leur petit... Si Dark Souls est le chef... Si Bandai Namco est le chef en cuisine, le From Software était un de leurs maîtres pâtissiers, voilà, qui leur fabriquait des Dark Souls,
le etc. chef étoilé débauché, voilà.
Et bien le chef pompe la recette de son apprenti et essaye de la remettre en place. Maintenant, est-ce que ça va tenir la route ? Rien n'est moins sûr. Et ce d'autant plus qu'on avait fait une preview en mai dernier, preview qui nous avait mais pas enchanté du tout. On avait eu de gros a priori sur le level design et notamment sur la sensation des combats aussi. Alors il y a un des aspects sur lesquels on a été rassuré avec le test, l'autre non, pas du tout. Donc commençons par ce qui va bien déjà dans ce jeu. La première chose, c'est le design. Donc on se retrouve avec quelque chose de très typé manga qui est pompé sur un autre jeu de Bandai Namco qui est un Monster Hunter-like, c'est God Eater. God Eater, c'est exactement ça. C'est un manga post-apocalyptique avec des personnages masculins androgynes et féminins plutôt sexy dans lequel les héros sont des plus ou moins des vampires et vont absorber l'énergie de leurs adversaires. Donc on est dans une espèce de monde dystopique où les humains ne sont plus que du bétail pour fournir du sang à ces hordes de vampires revenants qui sont là, qui existent, qui ont encore des sentiments humains. Et à côté de ça, malheureusement, ces vampires peuvent se transformer en déchus, donc qui sont des saletés de monstres démoniaques. Donc ça, c'est pour le pitch, l'univers est posé, donc vraiment pompé sur God Eater, un style de manga un peu sexy, post-apocalyptique, c'est assez sympa. Donc ça, avis aux amateurs, ça plaira ou ça ne plaira pas. Mais en tout cas, si ça vous plaît, bah déjà ça fait un premier bon point pour ce petit Code Vein.
Mais visuellement, ça fait vraiment Dark Souls pour les fans de manga, quoi.
Ouais, voilà.
T'aimes les mangas, t'aimes les Souls, tiens, voilà le mix entre les deux.
Carrément.
Surtout que Bandai Namco, ils éditent que ça quasiment, des jeux tirés de manga. Enfin, que ça, j'exagère, mais il y en a énormément qui sortent de chez eux.
Bah, je te dis, là, le design, ils sont pas allés le chercher très loin, hein, vraiment. Hein.
Ouais, c'est dans leur escarcelle. C'est très commun.
C'est God Eater, hein. C'est vraiment le design God Eater. J'ai pas poussé à aller vérifier si le nom des devs c'était les mêmes dans le dernier God Eater, par exemple, et dans celui-là. Mais c'est possible, hein, qu'ils aient pris. Parce que là, le jeu sort sous vraiment appellation Bandai Namco Studio. C'est pas un tiers qui l'a,
qui l'a développé. C'est développé chez
mais
eux.
Mais ils ont pu faire appel, très probablement, à certains devs.
Mais t'as tellement tous les codes. On voit plein d'architectures typées un peu gothiques qui font super post-apo dans les mangas, justement.
Donc, en termes de design et d'univers, c'est plutôt sympa, notamment si t'aimes le manga. Il y a un autre truc qui va te plaire, c'est si t'es fan de Dark Souls, puisque le jeu a des tonnes d'easter eggs, mais vraiment très très appuyés et connotés Dark Souls. Du genre, quand tu tues un boss, le HUD qui s'affiche à l'écran, c'est le même. Voilà, ça déjà, c'est un premier truc, tu fais genre un bandeau noir avec écrit vous avez vaincu en rouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
La customisation de perso, apparemment, je viens de voir.
Ouais, alors attends, j'en ai pas parlé dans l'histoire.
C'est du clin d'œil, tu penses?
Non, la customisation de perso, ce n'est pas du clin d'œil.
Non, mais les historiques dont tu parles, c'est de l'hommage ou c'est de la copie?
Je pense que c'est de l'hommage.
Ouais, c'est un jeu qui a été fait par des fans des Souls.
Probablement, ou alors ils ont piqué 2-3 idées de droite à gauche. Tiens, on va faire ça, c'était cool, on va le refaire. Donc oui, en effet, t'as un éditeur de perso au début, éditeur de perso qui est plutôt assez chiadé. T'as une vingtaine, trentaine de coupes de cheveux, tout un tas de visages, d'yeux, de sourcils, etc. Que tu fasses un mec ou une fille, 5 ou 6 tenues, mais les tenues, tu vas pouvoir changer les couleurs et du coup, la tenue, elle a plus rien. Il y a même des motifs, des textures qu'on peut appliquer aux tenues. Du coup, une tenue, vraiment, si tu changes le motif, elle n'a plus rien à voir l'une à l'autre. Donc t'as un éditeur qui est très sympa, sur lequel tu vas passer du temps et sur lequel tu vas même pouvoir revenir très facilement, sauvegarder tes designs et en changer assez fréquemment. Donc ça, les amateurs apprécieront. Du coup, Le design, j'étais parti sur un autre sujet.
Je sais plus ce que je t'ai coupé en parlant de
customisation. On va peut-être parler du gameplay.
Ouais, le gameplay.
Le gameplay, il tue la gueule.
Non, non, malheureusement.
Ok, il tue pas la gueule en fait.
C'est le gros défaut du jeu. Les Dark Souls et The Surge et Nioh et même d'autres jeux comme, je sais pas moi, Ashen ou qu'est-ce que j'ai pu tester d'autre. Enfin, j'en ai testé plein. Hein. on a quelque chose de très typé beat'em all, assez stylé. Là, malheureusement, on est sur quelque chose qui est mou, qui est pâteau, qui est lent, avec des animations rigides.
Oui, mais il y a une histoire, regarde.
Ouais, ouais, il y a une histoire. Ça, je l'ai mis dans les propositifs, ouais, l'histoire. Hein. L'histoire à l'univers.
Tiens, il y a des pommes en plus. Un hommage à Jacques Chirac. Bah, tu sais pas. Hein.
Ils avaient tout prévu, les mecs.
Bah, bien sûr.
Putain, quelle bande de génies. GG Bandai Namco.
Non, non, le gameplay.
Attends,
action...
c'est sorti le 27 septembre en plus, le ouais. jour de sa mort, je crois. Putain, je crois que c'est un signe.
Le gameplay action est non, franchement, est pas terrible. On s'ennuie un peu. Les affrontements sont, ouais, voilà, c'est vraiment une plus de la gestion type hack and slash que de la gestion type beat'em all. C'est rigide, c'est pas fluide. On s'ennuie un peu. C'est du coup très tactique, hein, parce que ces combats on les gère de façon, ouais, vraiment plus on fait attention qu'autre chose. Et puis c'est facile.
Ah ouais.
En vrai, c'est
donc super,
c'est
pas un
facile.
Dark Souls,
moi, le jeu, j'ai roulé dessus.
Ah oui, c'est vrai que c'est
roulé
c'est
dessus.
Ce que t'as mis un Dark Souls,
ouais,
pour les nuls,
ouais,
dans ton
Dark
test.
Dark Souls pour les nuls, c'est le titre du test. Vraiment, je crois ma première mort, il a fallu attendre un accident en tombant d'une plateforme.
Ah, je me suis endormi en fait. Du coup,
une heure et demie de jeu. Les trois premiers boss, je les ai one shot.
Ouais, mais toi,
first
t'as l'habitude
try.
Aussi. Ça se trouve, moi, et... je mettrais 10 heures quoi.
Le seul moment où j'ai eu un droit à un pic de difficulté, c'est parce qu'en fait je me suis trompé de chemin.
D'accord.
Je suis allé directement.
Et tu t'es retrouvé low level dans une
ouais,
zone
voilà,
où t'étais pas foutu.
Je me suis retrouvé bas level dans une zone avec un boss qui est censé être le quatrième ou le cinquième.
C'est possible.
Bon, je me suis fait défoncer.
Ah, c'est
oui,
possible.
Oui, c'est possible parce que j'en parlerai après du level design.
C'est vraiment bizarre
chemins.
Ça, je trouve. Mais bon.
Donc je me suis retrouvé contre un boss qui était peut-être un peu trop élevé pour moi au début du jeu. Bon, j'ai fait 3, 4, 5 au bout d'une heure. Et c'est bon, je fais vas-y, c'est bon, je vais aller farmer un peu. Mm. Donc je reviens un peu en arrière. Là, je découvre d'autres chemins, bien sûr, dans le jeu. Je bats 2-3 autres boss du premier coup à chaque fois parce que c'est vraiment assez facile. Du coup, je reviens contre ce cinquième boss. Et bah là, en plus, avec les fonctionnalités coop, bah, premier essai. Voilà. En étant un peu, avec 10 niveaux de plus et en ayant battu deux boss entre temps, en ayant fait appel à un autre joueur en coop, ce qui veut dire qu'en plus, on est 3 sur le terrain parce qu'il y a mon partenaire, moi et le partenaire que j'ai recruté en ligne. Bon, le boss, ouais, non, vraiment, il a pas fait long feu. Je crois qu'il a duré, quand je suis revenu, il a duré 30 secondes,
ah ouais.
À peu près.
D'accord.
Voilà. Non, la suite du jeu est un peu plus. À partir de ce moment-là, voilà, à partir de ce premier gap, on a un peu plus de difficultés, mais c'est pas non plus la mer à boire. Et avec un minimum de persévérance, on va pouvoir y arriver. On est vraiment. Par rapport à Dark Souls ou Nioh, vraiment, même pas un, mais deux, voire trois crans en dessous en termes
de
difficulté. Mmh. Alors du coup, c'est bien, c'est plus facile, on avance plus, on progresse plus simplement, mais à côté de ça, bah, on a moins la sensation de satisfaction qui est très grisante et qui est un des gros points forts des Dark Souls.
Quand tu bats des trucs super durs,
voilà. Donc en termes de gameplay, bah, c'est pas génial malheureusement. Et c'est dommage parce qu'il y avait un truc sur lequel on avait eu super peur, c'était le level design. Mmh. On avait eu peur que le jeu se déroule sous forme d'instance. Un peu comme Nioh justement, avec un hub central et tu pars en mission. Tel niveau, tel niveau, tel niveau. Ça, c'est ce que la preview nous avait montré à l'époque. Mais en fait, non, la preview, elle nous avait induit en erreur. Puisque ce qu'elle nous avait montré, c'était un tout petit bout du premier niveau, coupé de façon très linéaire, comme si c'était la fin. Mmh. Alors qu'en fait, bah non, la carte, elle continue super loin derrière. Et il nous avait montré un niveau bonus, en fait, qui n'est qu'une map où il n'y a rien à explorer, en fait. Où il y a trois chemins, tu récupères trois clés, tu ouvres la porte, il y a un boss, basta, c'est tout. Donc nous, on avait eu droit à ça, en fait. Bah là, on a été assez rassurés par le level design, en fait. Donc l'univers de Code Vein, c'est des zones séparées les unes des autres mais qui s'alignent, qui sont reliées les unes aux autres. Il n'y a pas vraiment de verticalité ni de super méga raccourci, ça reste quand même assez linéaire, même s'il y a plusieurs chemins à des moments à choisir. Globalement, on nous guide quand même dans une voie, voilà. Donc pas énormément de verticalité, de raccourcis démentiels comme j'ai pu vous en parler dans The Surge juste avant. Là, ça reste assez basique en termes de conception des niveaux. Mais les niveaux en eux-mêmes sont assez originaux. C'est-à-dire que, bon, sorti de la ville, en ruine, on va avoir d'autres petits trucs assez sympas. Donc déjà en termes de décor, où ça va être assez varié, mais surtout en termes d'idées. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir un niveau, c'est le marais enfumé, où on n'y voit rien. Il faut allumer des lampes torches pour pouvoir se repérer au loin et essayer de voir son chemin. Voilà. Donc, le level design, c'est pas extraordinaire. C'est clairement pas au niveau d'un Dark Souls. Il y a des petites longueurs, genre des petits labyrinthes un peu dégueux. Ça, j'avoue que c'est un procédé, je suis pas très très fan. D'autres procédés pas extraordinaires, comme des clés à récupérer sur un ennemi pour pouvoir ouvrir une porte. Enfin bon, bref. Des trucs assez basiques et pas très palpitants, pas très, mais globalement, ça fonctionne. D'accord. Et comme je disais, en termes de design, en plus, on a vraiment des trucs très sympas. Ah tiens, on voit depuis tout à l'heure des images, je vais pas noter son nom, ceux qui ont vu les images se sont fait spoiler et l'ont vu, donc je pars sur les clins d'œil à Dark Souls. Comme je disais, le HUD tout à l'heure, t'as des décors, clairement ils sont tirés de Dark Souls. Il y a des gros clins d'œil, même dans le level design en lui-même, genre quand on devait descendre par exemple dans le hameau du crépuscule dans Dark Souls, on descendait par un trou en se jetant de plateforme en plateforme. Là il y a une phase assez similaire dans Code Vein. Il y a vraiment plein de petites choses comme ça, même rien que les animations quand tu bois une potion ou quand tu prends un objet, t'as l'impression qu'elles sont tirées d'un Dark Souls. Il y a énormément de toutes petites gouttes comme ça qui sont distillées et qui te font indéniablement penser à Dark Souls. J'en cite un dernier, par exemple, assez régulièrement, donc il y a des pièges un peu partout dans les niveaux et ça arrive que tu te trouves avec des slimes qui tombent du plafond. Ça rappellera pas mal de souvenirs à certains. Voilà. Y a un autre aspect qui est assez sympa, même s'il reste au final plutôt simpliste, c'est l'aspect RPG. Au niveau du leveling, c'est très basique. On passe des niveaux, ça augmente les stats. Là, on choisit même pas si on veut mettre de la force, de l'endurance. Non, si tu passes du niveau, c'est tout.
C'est prédéterminé par le jeu.
Ouais, voilà. Donc, tu passes du niveau, c'est tout. Tu peux améliorer ton équipement, ton arme et ton armure. Mais ça, encore une fois, ça reste très, très linéaire, assez simpliste. Même si là, pour le coup, il faut des objets un peu particuliers. Mais ces objets, tu arrives assez vite à voir comment est-ce que tu vas pouvoir les avoir. Ils sont pas cachés. Il y en a certains qui sont cachés, mais il y en a d'autres, c'est les PNJ qui peuvent te les donner. Au niveau du leveling, c'est assez basique. Par contre, là où ça va être super intéressant, c'est au niveau de la classe. Donc les revenants, puisque c'est des vampires, je disais tout à l'heure, ils sont équipés d'un code génétique. Et là où il est très fort, notre héros, c'est qu'il va pouvoir changer de code à la volée. C'est-à-dire que tu prends le code magicien, bah paf, t'as des boules de feu, t'as des attaques à distance, t'as du soin, t'as des trucs comme ça, et paf, d'un coup tu changes, clac, tu te mets en assaillant, et là ça y est, t'as des buffs d'attaque, t'as des buffs de défense pour devenir un gros tank. Bien sûr, il faut que t'adaptes l'arme que tu portes avec toi. Si t'as un magicien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un fusil qui va pouvoir tirer de loin et attaquer de loin.
Et le jeu t'invite à changer comme ça d'une classe à une autre en fonction des situations, ou c'est
milieu,
à toi d'expérimenter?
Au milieu du combat, c'est difficile, hein, parce qu'il faut mettre le menu pause. Il n'y a pas de pause dans le jeu, hein.
Oui, tu restes à la merci du boss en question.
À la merci du boss. Donc non, tu vas pas changer de code avant un combat. Tu vas le faire au préalable, ta préparation. Donc tu vas choisir ton code et choisir tes classes. Et là où c'est cool, c'est que quand tu t'es suffisamment servi d'un don, donc un don c'est une compétence. Pour le magicien, c'est une attaque à distance. Pour l'attaquant, ça va être même un combo que tu vas déclencher tout seul. T'appuies sur le bouton et paf, ton bonhomme donne les 3-4 coups du combo. Ça peut être des buffs, des soins, des trucs comme ça, voilà. Bah, tous ces dons, donc ces compétences, tu peux les apprendre définitivement. Et les équiper, quelle que soit la classe que tu es équipé. Donc tu vas récupérer tout au long du jeu.
C'est très Dragon Quest, ça.
Ouais, tu vas pas avoir le même code tout le long du jeu, donc tu vas pas avoir la même classe tout le long du jeu. Tu vas commencer magicien, mais assez vite, ta classe de magicien, bah en vrai tu les auras appris les sorts, donc bah tu vas t'en équiper d'une autre pour pouvoir apprendre des nouveaux sorts. Et au final, quand dans ton build t'as appris tout un tas de compétences, bah tu peux créer. Donc déjà avoir une partie de compétences de la classe qui est équipée en ce moment, et en plus tu peux
plus toutes celles que t'as
farmées
avant.
Donc tu peux vraiment construire le perso
une
dont tu
bien,
as envie.
Bien optimal.
Voilà, donc soit un combattant à distance, soit un tank, soit un buffer, soit
un
healer. Enfin voilà, tout est
possible. C'est pour ça que t'as eu un bon ressenti au final sur le jeu.
Ouais. Alors moi vraiment, ce qui m'a plu dans le jeu,
rappelle que t'as mis 7 hein,
ouais,
au
ouais,
test.
Ouais.
Hein.
Moi, ce qui m'a plu dans le jeu, c'est l'univers déjà, non ? Le level design qui, malgré ses petits défauts, reste quand même assez intéressant. La partie RPG qui, malgré encore une fois une certaine linéarité, reste tout de même assez intéressante et passionnante. Vraiment, pourquoi est-ce qu'il a pas plus de 7 ? C'est à cause de son gameplay trop mollasson et où les combats sont pas vraiment palpitants et du fait que ce soit trop facile aussi, j'ai trouvé. Voilà. Mais donc, c'est pas. C'est pas le meilleur Dark Souls-like auquel on ait jamais joué, mais de par son univers, de par ses petites qualités, il mérite qu'on se penche dessus si on est fan.
Ouais, puis s'il est moins frustrant, si on est fan du genre,
oui, ça peut être une porte d'entrée aussi.
Si t'aimes les mangas, c'est parfait.
Ouais, voilà, exactement. Donc là, vraiment, sur celui-là, The Surge 2, moi je le conseille à tous les amateurs de Dark Souls.
À tous les noobs, comme
celui-là, je serais un peu plus mesuré. Je le conseillerais aux amateurs de Dark Souls, doublé
les vrais,
d'amateurs
les
de
presque,
manga.
Presque, ouais.
Voilà. Mais ça reste pas mal, franchement.
D'accord,
vraiment pas mal.
Parfait.
Voilà. Et mieux que ce qu'on avait cru entrevoir lors de la preview.
Donc c'est sorti
donc
le
c'est
27
une
septembre.
Bonne surprise au final.
Sur, attends, c'est bien sorti sur PS4, Xbox One et PC.
Hein. Xbox One, PC. Ouais.
On est d'accord. Okay.
Voilà,
comme
voilà.
The Surge 2 d'ailleurs.
Tout à fait, exactement.
Exactement.
Et c'est en test donc sur Gameblog.
Voilà.
Pour lire le test de Johnny One.
Dark Souls pour les nuls.
Tout à fait. Un superbe titre, ma foi, qui conclut ce thème numéro 2 sur les jeux Dark Souls like. Qui sont sortis ces derniers temps et dont on Johnny One vient de vous parler
voilà.
En large
donc
et
là,
en travers.
On a eu notre dose pour quelques temps.
Exactement. C'est quand les prochains Dark Souls
C'est le mois prochain. J'en ai aucune idée en fait.
Bah écoute, ça va.
Moi j'avais Code Vein et The Surge en vue et je t'avoue que je me suis pas trop intéressé à la suite. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre?
Non, c'est des modes comme ça. Ça
From
vient de temps en temps. Puis après ça.
Probablement nous en sortira
du show. Tu vas pouvoir jouer autre chose. C'est cool.
Instantanément sous peu. Bah là j'ai commencé Borderlands. Tiens.
Bah voilà.
J'ai fini Monster Hunter. J'ai commencé encore un autre jeu super long.
Ah bah ça oui, c'est sûr que c'est pas des mini-jeux,
non.
N'est-ce pas? On passe au thème numéro 3, mon cher Thomas Mahut.
C'est vrai.
Et dans le thème numéro 3...
Son esprit reste avec nous.
Exactement, de quoi allons-nous parler? Des Dragon Quest.
Eh oui, des Dragon Quest.
Qui reviennent là comme ça au bout de 50 ans.
Alors qui reviennent au bout d'un certain temps, alors ça dépend lesquels. Là en l'occurrence, on va commencer par quand même le gros morceau de cette semaine, puisque le 27 septembre dernier sortait Dragon Quest 11. S, l'édition ultime, donc DQ11 que Rudy avait testé pour nous
ce
en
cher Rudy.
2016, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a ensuite retesté en 2017 quand il est sorti chez nous, ou alors c'était 2017-2018, je ne sais plus, et qui là ressort enfin sur Switch, puisque c'était le premier jeu annoncé de la console historiquement.
Oui, mais sur Switch.
Oui, mais sur Switch. Et pourquoi c'est super chouette? Eh bien parce que cette version, elle est vraiment ultime. Pour une fois, la jaquette ne nous trompe pas. On a évidemment la version PS4 de DQ11 que vous connaissez déjà, donc la version 3D, vraie 3D, qui a été un petit peu compressée pour tenir sur Switch. Je t'avoue que techniquement, c'est évidemment un petit cran en dessous, on va dire, même si l'ADA, le design des personnages à la Toriyama nous immerge quand même dans un truc assez féerique, assez fantastique. Mais en plus, cette fois-ci, si vous étiez passé à côté, vous allez en plus profiter des musiques symphoniques. Et ça change quand même pas mal de choses, parce que les musiques d'origine de DQ11 en MIDI, déjà que les musiques n'étaient pas super inspirées, alors en plus avec l'orchestration qu'on avait avant, c'était comme qui dirait un peu Dead Girls, si tu vois ce que je veux dire.
Elles ont été réorchestrées donc c'est
là,
ça.
Là elles ont été complètement réorchestrées par l'un des orchestres de Tokyo avec lesquels Sugiyama a l'habitude de travailler. Du coup ça change quand même pas mal la donne, ça donne une dimension un peu plus épique à l'aventure. Les personnages sont doublés pour la première fois dans la série en japonais. Quand on avait interviewé Yuji Horii, il nous avait dit que ça avait été un peu dur de le faire passer parce que Dragon Quest a une base de fans assez hardcore au Japon qui veut rester à tout prix sur les poncifs de la série. Ben voilà, là vous pouvez mettre les persos en japonais, sachant que le design c'est Akira Toriyama, c'est quand même un peu plus raccord que les accents anglais un peu chic et consorts qu'on avait dans la version PS4. Mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, la version Switch, elle vous permet de switcher en l'occurrence et de basculer dans un format 2D, de retrouver en fait la même aventure.
C'est ce qu'on vient de voir à l'image là, effectivement, ça fait bizarre.
C'est exactement le même jeu, mais comme s'il était sorti sur Super Famicom par exemple, puisqu'on a une esthétique 16 bits pixel art un petit peu colorée. Et ça, c'était l'une des versions qui était proposée sur 3DS quand le jeu est sorti au Japon. Donc on s'assoit sur la version 3D de la 3DS qui elle était une version un peu chibi 3D toute mignonne que nous n'aurons donc a priori jamais, sauf si le jeu ressort une troisième fois, allez savoir. Mais du coup, cette version 2D, elle nous permet de vivre la même aventure, mais à 100 à l'heure, en fait, parce qu'on retrouve ce côté hyper, hyper rentre-dedans, hyper rapide, hyper dépouillé, on va dire, des JRPG de cette époque-là, de la fin des années 80, du début des années 90. Pour avoir fait la version 3D sur PS4, il y a des scènes qui des fois te prennent plusieurs minutes, le temps que les personnages s'expriment, qu'il y ait ton cadrage et tout. Là, c'est deux lignes de dialogue, les personnages sautent sur place, font un tour sur eux-mêmes, pouf, c'est parti, tu vois. Ça t'a pris, allez, 20 secondes si tu passes les dialogues assez rapidement, et t'es reparti à l'aventure. Donc il y a une vivacité que tu n'as pas dans la version 3D. Alors, en plus d'avoir le charme du pixel art, tu peux profiter quand même encore des musiques symphoniques, même en 2D. Ça donne un espèce de mélange entre
ça fait bizarre,
entre deux générations qui est assez bizarre au début,
et entre tradition et modernité.
Exactement, et au bout de quelques heures de jeu quand même, tu t'y fais. Donc on retrouve l'interface des Dragon Quest comme c'est le cas depuis le premier, en tout cas tous les épisodes 2D étaient en mode first person. Donc on retrouve ce truc là, mais on a vraiment un rythme de jeu qui est chamboulé par rapport à la version 3D. Ça va vraiment à 100 à l'heure. On a en plus des quêtes qui sont inédites justement à cette version 2D sur Switch, puisque je vous spoil pas, mais il y a un tournant, on va dire, dans l'aventure qui arrive à peu près au tour de la vingtaine d'heures. Et puis là, ils ont glissé des quêtes supplémentaires qui vont faire le lien en fait entre la première et la deuxième partie de l'aventure. Alors c'est pas ma boule, j'ai presque envie de dire que ça ralentit un peu le rythme au milieu de l'aventure, mais bon, c'est un contenu inédit qu'on n'avait pas avant. Et comme c'est la première fois aussi qu'on a la version 2D en Occident, eh bien c'est l'occasion de profiter des quêtes de Chronopolis, qui c'est un espèce d'hommage gigantesque de la série, puisque c'est un lieu dans lequel vous allez pouvoir refaire des micro-chapitres au dixième, en parlant en fait à des petits, ces espèces de petits êtres qu'on voit par terre, enfin que seul le héros de DQ11 peut voir. Et bah tu vas débloquer comme ça des chapitres, et bah forcément beaucoup de clins d'œil, beaucoup de nostalgie, les thèmes de l'époque refaits parfois en chiptune. Il y a énormément de choses à faire, et du coup on est face à un contenu qui est quand même vraiment très conséquent. Si vous avez déjà joué à un DQ, vous savez que le endgame d'un Dragon Quest, c'est quand même très très long et très velu. Et si jamais vous savez pas trop pour quelle version opter, il y a une petite astuce qui vous permet de switcher en fait d'un mode d'affichage à l'autre, c'est-à-dire que ta partie en 2D, tu vas pouvoir, pendant que tu es au feu de camp, discuter avec quelqu'un et basculer en 3D. Alors ça va pas te remettre exactement à l'endroit où t'en étais, en fait tu vas pouvoir recommencer n'importe quel chapitre que t'as déjà bouclé dans l'aventure, mais en gardant tes stats, ton expérience, etc. Ouais. Et du coup, s'il y a un lieu que t'as vu en 2D et tu te dis mais comment ils l'ont modélisé, à quoi ça ressemble en 3D, bah tu peux très bien faire un test, ne serait-ce que quelques minutes.
Et ça marche tout le temps.
Et ça marche tout le temps, il faut juste que t'aies bouclé un chapitre pour pouvoir voir la suite. Mais j'ai fait le test.
Ça balèze quand même ça.
Dans un sens comme dans l'autre.
Ça fonctionne.
Ça se fait quand même assez rapidement. En moins d'une minute, t'es passé d'une version à l'autre. Et même si c'est pas la promesse originale des développeurs qui nous faisait miroiter que hop, tu claques des doigts et pouf, tu te retrouves au même endroit dans une dimension ou dans l'autre, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais quand même, j'ai trouvé que ça marche. Ah, il s'appelle Rab en anglais, ok, c'est Théo en français. Parce que, évidemment, le jeu profite d'une version française aussi super bien foutue. J'avais pas fait le jeu en VF, je crois, sur PS4. Franchement, au niveau du nom des monstres, il y a des fois, c'est du niveau d'un Pokémon. Tellement il s'éclate avec les noms des monstres. Il y a ce fameux gluant cornu dont je parlais tout à l'heure avant qu'on enregistre. Et il y a même une ref à... Merde.
Ah, t'as la ref.
Le jour de la marmotte, là. Comment il s'appelle en français ?
Murray.
Un jour sans fin. Merci. Ouais. Voilà, donc t'as plein de trucs sympathiques comme ça, et donc les deux modes entre lesquels vous pouvez alterner. Donc voilà, si vous étiez passé à côté,
t'as le petit chaperon rouge là,
c'est vraiment la version ultime. Si vous l'aviez fait en 3D, que vous avez apprécié l'aventure en 3D, c'est formidable de la refaire en 2D. C'est un rythme complètement différent, c'est un côté désuet qui donne une autre dimension à certaines scènes vraiment dramatiques, et il y en a quand même un certain nombre dans DQ11. Voilà, si vous aimez la série, c'est difficile de passer à côté. Enfin, la version 3D classique était pas forcément indispensable. Là, ça y est, on l'est. Le jeu est très bon et indispensable cette fois-ci. Et alors, voilà, c'est toujours l'esthétique d'Akira Toriyama, que ce soit en 2D ou en 3D. Bref, si vous aimez la série, les JRPG, c'est celui-ci qu'il faut faire si vous étiez passé à côté. Et même si vous l'avez fait, eh ben, je suis désolé, il va falloir repasser à la caisse, parce que les deux dimensions proposées changent quand même pas mal la donne.
Et on rappelle que c'est sorti le 27 septembre dernier.
Uniquement sur Switch,
sur
pour
Switch.
Le coup.
Et tu avais mis combien déjà au test?
Bah lui, il prend 8 cette fois-ci. 8 indispensables, là où la version PS4 n'héritait que d'un 7. Pour toutes les limitations que vous aurez pu comprendre, vu que là on a un nombre d'ajouts quand même très 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 conséquent.
Exactement. On va juste rappeler que sur Twitter il y a un concours pour gagner la console Switch japonaise,
tellement
non zonée donc, Dragon Quest. Et vraiment c'est une pièce unique, hein. Il n'y en aura qu'une pour nous en tout cas.
Elle était produite à un exemple
en cadeau.
Pour
non, quand même pas, mais je pense qu'ils en aient fait des tonnes. Mais voilà, ça sortira jamais en France.
S'ils en ont une rab, comme non, ça, si... j'arrêterai.
Oui, mais bien sûr, Johnny One.
S'ils en ont une rab, elle est pour moi, mec.
Comme
elle
ça, j'arrêterai
chez moi direct.
J'arrêterai de piquer celle de la rédac, comme ça.
Elle viendra même pas à la rédaction, la console, vous voyez. C'est Nintendo qui l'enverra directement gagnant.
On pourra même pas la piquer, ouais.
Voilà, donc le concours, il court jusqu'au vendredi 4 octobre. Donc vous avez encore le temps de jouer. Il suffit de RT et de follow si vous voulez, pour tenter de la gagner.
Bande de petits vénards.
Et là, voilà. Ouais, effectivement, le vainqueur ou la vainqueur aura beaucoup de chance. Voilà, donc c'est sur Twitter que ça se passe et voilà. Mon cher Thomas.
C'est pas fini,
non, pour les Dragon Quest.
Et oui, parce que petit rappel,
exactement.
Le même jour que DQ11, donc à savoir le 27 septembre, sont ressortis sur l'eShop.
Exact.
DQ1, 2 et 3 séparés, mais on sait qu'il y a une compilation aussi qui va sortir dans les prochaines semaines, qui va donc regrouper les trois premiers épisodes. Et bah, j'ai eu la chance de un peu leur rentrer dans le lard ces derniers jours.
Dans le lardin.
Et bah, vous vous demandez peut-être si ça vaut le coup de réinvestir dans les trois premiers DQ. Et j'ai envie de vous dire, ça dépend de votre
porte-monnaie,
curiosité et de votre ouverture d'esprit, on va dire, parce que c'est un exercice super intéressant. Alors, premier DQ sorti en 86, le deuxième en 87 et le troisième en 88, qui forment une trilogie, voilà, à peu près reliée scénaristiquement, où c'est une espèce de famille qu'on suit, on sait qu'à la fin, mais à travers les siècles. Et c'est un portage qui est malheureusement hérité des versions mobiles. Et pas des versions
pas
originales
terrible,
ou des remakes qui avaient été faits sur Super Famicom.
Tu veux dire que ce sont des portages à la petite semaine ?
Alors pas forcément à la petite semaine, mais visuellement c'est pas forcément ce que j'attendais. On a une 3D lissée un peu...
Pas très heureuse.
J'ai presque envie de dire que les versions mobiles faisaient plus honneur au pixel art. En fait, là, on a quelque chose d'un petit peu lisse qui est pas forcément fantastique. Mais pour le coup, si vous avez un peu d'appétence au niveau de l'histoire du jeu vidéo, et ben c'est quand même vachement intéressant parce que même si c'est un peu moche et un petit peu saccadé, refaire les trois premiers, c'est un exercice assez fou,
ouais.
Parce qu'on part de très très loin. Le premier DQ, c'est un perso, c'est une map avec trois villes, c'est un ennemi qu'on affronte à chaque fois, c'est hyper rudimentaire, mais ça permet de voir d'où la série est partie,
ouais, c'est ça, voilà.
Et pourquoi elle a eu énormément de succès, parce que tu te racontes quand même une histoire, c'est des énigmes ultra alambiquées. Parce que si t'es pas allé parler au PNJ qui est caché dans le sous-sol de telle ville
équipé
de tel item, et ben il va pas te donner l'indice nébuleux pour te dire que si tu vas à tel endroit et que tu vas à 40 pas sur ta droite, tu vas trouver un item.
Donc même par chance, tu peux pas avancer, quoi.
Moi, je l'ai fait avec une soluce un peu sur les genoux quand même, parce que sinon, t'y passes ta life. Et moi, j'avais envie d'avancer et de finir le jeu. J'ai fini le premier Dragon Quest en un week-end, hein, donc c'est très rapide. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup de leveling, parce que c'est un jeu qui est très rudimentaire à la base. Et puis après, bah, tu peux enchaîner le 2, le 3 et voir comment la série évolue. Et tu vois que dès le deuxième épisode, il y a eu plein d'ajouts. Une fois de plus, on retrouve ces graphismes pas fantastiques de la version mobile un peu lissée. Mais si vous aimez le genre du JRPG, si vous avez jamais fait les trois premiers Dragon Quest, parce qu'ils sont officiellement pas sortis chez nous sur console, en tout cas en Europe,
c'est l'occasion là. Ouais.
C'est un petit peu l'occasion. Les jeux sont... Alors le prix va crescendo, hein, je crois, de 5,49 à 12,49 pour le 3. La compile va sortir le mois prochain en version physique.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a
mais
aussi la compile.
À titre personnel, je trouve que c'est un récit passionnant. C'est se replonger dans les archives du jeu vidéo et la naissance d'un genre. Et si vous arrivez à passer justement au-delà des graphismes, que vous êtes prêt à investir un petit peu de temps, c'est fantastique ce qu'on peut découvrir en refaisant cette trilogie, d'autant plus que les musiques sont réorchestrées pour le coup, donc vous avez les versions Symphonic Suite de DQ1, 2 et 3 qui sont bien plus buvables que les versions d'origine. Ce que je trouve hyper dommage, c'est qu'on n'ait pas pu switcher avec la version d'époque ou à la limite les remakes Super Famicom, parce que les trois jeux ont été refaits sur Super Famicom. Je trouve ça vachement dommage de pas avoir permis de changer comme ça cet habillage.
D'accord.
Parce que là, ça aurait été fantastique.
Mais là, pour le coup, ça, il vaut peut-être mieux attendre la version physique Switch que les prendre sur eShop, non ?
Ah bah tu me demandes, tu
surtout pour les collectionneurs.
Tu prêches un convaincu, donc je vais voilà. te dire oui, évidemment.
C'est logique quoi.
Pour
part.
Avoir une superbe boîte avec des.
Bah oui. Non mais surtout
avec
tu
des
penses
conditions
pas...
d'utilisation imprimées au recto et une cartouche qui te sert à que dalle puisque de toute façon il y a un bug bloquant et il te faut la mise à jour. Voilà.
Non, il y a pas de bug bloquant. Oui, sur les jeux d'écu. C'est des jeux très très simples.
J'ai trollé.
Non mais voilà, si vous êtes curieux, si vous avez envie de vous faire une plongée dans le passé.
Surtout cette version de Switch, je pense qu'elle va devenir collector. J'imagine qu'ils en ont pas fait des milliards d'exemplaires quoi. Là, je parle de la version physique. Hein.
C'est une version qui est réservée à l'Asie, donc effectivement.
Ah, c'est que à l'Asie. Je pensais que ça sortait chez nous aussi.
Oui. Alors, heureusement que tu m'en parles, parce que c'est l'un des problèmes. Putain, j'ai failli complètement passer à côté.
Oui, il me semblait que ça sortait chez nous.
C'est que les jeux sont en anglais. Et alors, pas n'importe quel anglais. Ye old English.
Ah là là. Super.
Le vieil anglais, puisque en fait, pour se donner une dimension un peu médiévale, il faut savoir que les Dragon Quest, quand ils sortent aux États-Unis, en tout cas jusqu'à pas longtemps, ils ont ce côté vieil anglais, Dao, Shout, etc. Donc, si vous êtes, c'est des jeux simples, hein.
C'est bizarre.
Mais si vous êtes pas à l'aise, là pour le coup, au niveau des dialogues, vous allez vraiment en chier parce qu'il faut, il faut quand même avoir un petit peu de notion. Et il y a pas de français qui est proposé, que ce soit pour le 1, le 2 ou le 3. Si vous voulez faire dans une langue qui n'est pas asiatique, et c'est du vieil anglais et c'est à peu près tout. Donc c'est rigolo, ça fait bosser, hein, ça vous remémore des trucs si vous avez
fait des
vieux RPG un peu dans ce style-là. Mais bon, voilà, sachez-le, si vous êtes frileux avec l'anglais, là, sachant que c'est que des termes un peu vieillis avec des orthographes qu'on a perdus, etc., vous allez peut-être moins rigoler. Mais il y a des solus partout sur le net pour avancer dans des culs, donc... vous posez pas trop non plus la question.
D'accord.
Mais en effet, j'ai failli vous dire qu'il n'était pas en français.
Asie.
Elle est disponible qu'en Asie. Ouais, donc c'est du Play Asia, Nintendo Soup, etc.
Bah voilà, allez-y, hein, vous pouvez vous la procurer si
donc,
vous voulez.
Un fabuleux morceau d'histoire à faire en se remémorant d'où vient la série et en se replongeant un petit peu dans le contexte de l'époque. Sinon, vous allez trouver ça très raide, très rudimentaire, mais il faut se rappeler de ce qu'était le JRPG quand il a commencé.
Parfait, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Thomas. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les Dragon Quest. Qui ont ressurgé de nulle part cette semaine. Et on va passer tout de suite à l'anniversaire. Bah, c'est toujours toi, en fait, qui va nous parler
ah bon
d'anniversaire.
Ah, merde.
Oui, exactement.
Ah oui, bah oui,
The
c'est
Minish
vrai.
Cap, rappelle-toi.
Exact.
Le Minish Cap, le 4 novembre 2004, au Japon, c'est sorti.
Et ouais, du coup, c'est.
Tu te rappelles du Minish Cap ou pas ?
Bah, carrément, ouais. Tu te rappelles, toi ?
Moyennement.
C'est les 15 ans de The Minish Cap. Peut-être le dernier Zelda, d'ailleurs, en vrai 2D. Maintenant que j'y pense.
Et bah oui, c'est fort possible.
Parce que après, on a eu que des trucs en 6 minutes 3D.
Oracle of Season et Edge, c'est avant ou c'est après
Minish Cap ? Ils sont avant et ils sont justement la cause de The Minish Cap quelque part parce que c'est Capcom qui avait travaillé sur Oracle of Season et Ages. Et comme ça s'était bien passé, les pourparlers avec Nintendo ont continué. Et du coup, à un moment donné, Aonuma leur a dit « Mais vous voudriez pas faire une démo technique pour la Game Boy Advance un peu plus avancée et tout ?» Ils ont modélisé une ville et Nintendo a dit « Ok les cocos, c'est parti,
Nami.
Faites un Zelda sur GBA » et ça a donné The Minish Cap qui est un Zelda hyper intéressant.
Pourquoi tu n'as jamais fait ce Zelda ?
Alors j'ai envie de te dire
parce que c'est
parce que t'es
derniers.
Qu'un con, mais...
Bah oui, sûrement. Parce que
parce
je crois que c'est
l'avais,
mais je suis
trop
fait.
Vieux, c'est pour ça.
C'est possible, hein. Peut-être qu'à l'époque j'étais occupé à faire d'autres trucs.
C'est vrai ?
Mais je l'ai jamais fait celui-là, c'est bizarre.
C'est un Zelda qui est très intéressant et qui est surtout hyper charmant parce que il a une esthétique un petit peu particulière et c'est un épisode dans lequel alors on va apprendre l'origine du bonnet
de
Link.
On reprend un peu le design de Wind Waker, mais sur Game Boy.
Ouais, il y a un petit peu de ça. C'est une DA encore un petit peu particulière parce que ils ont eu conscience que t'allais jongler en fait entre les échelles quelque part parce que t'as le monde tel qu'on le connaît et le monde microscopique. Et en fait, Link va
des champignons.
Jongler entre les deux. Voilà la scène que Poufy vient de nous montrer. C'est une des premières où on rapetisse et où d'un coup, l'univers d'une maison, ça va être presque une world map à part entière. Puisque si Link est microscopique, il va devoir escalader
des
étagères,
des
bouquins, etc. Et ça donne une double lecture à la plupart des lieux. La forêt où on rencontre les Minish. Donc les Minish, c'est ce peuple justement microscopique qui va aider Link dans sa quête.
Ça devient des schtroumpfs là.
Il y a, ouais, non, mais il y a un petit côté, bah, ça mélange les Schtroumpfs, Gulliver, il y a vraiment plein de choses. Et il possède une esthétique vraiment particulière. Et j'aime beaucoup le passage qu'on avait entre les différentes échelles. Et puis on voit bah, ce méchant là, Fahati, qui est pour une fois aussi un autre méchant que le sempiternel Ganon. Donc comme Link's Awakening, on changeait un petit peu justement d'univers. Et il profitait d'une direction artistique, mais vraiment superbe pour l'époque. Il est très coloré, il est très inspiré, et donc vous voyez le bonnet de Link, c'est justement une espèce de piaf qu'il rencontre au début de l'aventure, et ça va historiquement expliquer d'où vient son couvre-chef, si jamais la chronologie de la saga Zelda vous parle. Donc il y a plein de petites trouvailles, un jeu vraiment chouette qui malheureusement n'est jamais ressorti ailleurs.
Oui, c'est dommage ça.
C'est un petit peu dommage, Nintendo.
Attends, ça va arriver.
Bougez-vous les fesses.
Ça sera bien, ouais.
Parce que c'est un Zelda dont on parle pas beaucoup et qui a pourtant beaucoup de qualité. Mmh. Et alors, il faut savoir qu'il était sorti chez nous avant qu'il sorte aux États-Unis. Parce que, comme il est sorti justement à la fin de l'année 2004, puisqu'en fait c'est 15 ans.
4 novembre.
À ce moment-là, aux États-Unis, il y a la DS qui allait sortir. Puisque la DS est sortie aux États-Unis avant même le Japon et l'Europe. Et du coup, Nintendo avait peur que de balancer un Zelda sur GBA, ça vampirise un petit peu les ventes. Et ils se sont dit, attendez, on vend la DS en fin d'année, et puis vous mettez le Zelda début 2005 pour les ricains, parce que sinon ça va faire trop d'un
DS
coup.
Que j'avais importé, moi.
Moi aussi, en US, pour l'avoir avant tout le monde.
Quelle classe.
Ce qui m'avait pas empêché de faire Minish Cap avant, d'ailleurs.
Mais je crois bien que j'ai la version japonaise en boîte de Minish Cap.
Quelle classe.
Quelque part chez moi. Je
avec
sais pas
un artwork magnifique, puisque...
Soit c'est inondé dans ma cave, soit je sais pas.
Comme les cartouches Neo Geo.
Malheureusement, ouais. Je crois que j'ai un peu tout perdu, là. Mais bon, c'est la vie. C'est comme ça.
Donc voilà, bon anniversaire,
parfait,
Minish Cap.
Tout à fait, 15 piges.
Le dernier Zelda développé en partenariat avec Capcom. Donc 15 ans aujourd'hui.
Exactement. 15 ans et toutes ses dents. Et bah, c'est l'occasion peut-être de le refaire, hein, si les gens peuvent se le procurer.
De le faire ou de le refaire, ouais.
Ouais. À commencer par moi déjà. Tout de suite, c'est l'heure du hors-jeu. Et cette semaine dans le hors-jeu, de quoi allons-nous parler?
D'un
Johnny
manga.
One, ouais.
Un manga.
D'un manga. Et tu crois que ça va être bien?
Ouais, c'est cool, ouais.
Et ben voilà, merci Johnny.
Merci, au revoir. Non, alors c'est un manga qui s'appelle Gigant. Gigant, c'est le nouveau manga de Hiroya Oku. Hiroya Oku, c'est quelqu'un dont je vous avais déjà parlé dans un ou plusieurs hors-jeux sur Gameblog, puisqu'on lui doit plusieurs mangas. Alors, son plus connu, c'est Gantz. Gantz qui nous racontait l'histoire de jeunes gens qui mouraient mais ne mouraient pas et se retrouvaient téléportés dans une chambre qui leur filait des missions, des extraterrestres à buter, et à la fin de la mission il y avait un décompte de points, enfin bon bref, un truc très très jeu vidéo, très gore, très sexy, tout ça, qui brisait un peu tous les codes du manga, et mais qui finissait malheureusement un petit peu en eau de boudin, puisque la série durait un peu trop en longueur, et malheureusement à la fin, qu'est-ce qui se passait? C'était pas très intéressant, voilà. Il y avait 25 premiers tomes formidables et les 10 derniers c'était une vraie purge. Donc ensuite ce monsieur là il s'est concentré sur des séries un peu plus courtes, il en a fait une notamment qui s'appelle Last Hero Inayushi, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom de la série, qui était un peu plus passionnante, qui nous racontait une histoire assez manichéenne entre deux héros qui meurent, un jeune, un vieux, qui sont tués par des extraterrestres. Alors ça, c'est une constante.
J'allais dire, on retrouve quelques éléments.
Ouais, voilà. Et les corps des extraterrestres étaient remplacés par des corps mécaniques, mais dignes de Iron Man. Et du coup, le jeune, lui, pétait un plomb et devenait méchant. Et le vieux, lui, se servait de ses pouvoirs pour faire le bien. Une série assez manichéenne, très simple dans ses enjeux, mais vraiment bien bien faite et uniquement en 10 tomes. Ce qui veut dire que l'auteur, là, ce coup-ci, il avait pas eu le temps de se perdre et de nous pondre une fin à chier. On espère que ce sera le cas aussi avec cette nouvelle série, Gigant, donc on espère qu'il va partir sur un cycle plutôt court, une dizaine de tomes. Là, ce coup-ci, on a droit à une nouvelle histoire, mais qui va être toujours aussi barré. Alors, toujours des extraterrestres, là, mais revenons un tout petit peu en arrière. Donc, dans Gigant, on nous raconte l'histoire de deux personnages principaux. Le premier, c'est un étudiant, alors je ne me rappelle plus son nom. Cet étudiant, bon, c'est un peu un geek. Il a des posters de Gantz dans sa chambre, etc. Et il tombe, il a un petit secret, c'est qu'il est fan de Papico. Et Papico, c'est une actrice porno, en fait. Voilà. Donc il a ses DVD, etc.
C'est pas
l'actrice du siècle, hein, voilà. Mais lui
c'est une actrice de niche.
Ouais, voilà, c'est une actrice de niche. Et lui, il est fan, et voilà. Il a acheté tous les DVD, tout ça, etc. Et un jour, ce jeune homme, il se rend compte que cette actrice, cette Papico, elle habite dans son quartier, en fait.
Quelle chance.
Voilà. Et qu'il y a des.
La vie est bien faite. des, quand même par moment,
des messages d'insultes partout sur les murs. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'aller aider sa petite voisine en allant décoller les affiches. Forcément, qu'est-ce qui se passe quand il décolle les affiches? Bah, il tombe sur elle. Voilà. Du coup, il y a une espèce de relation qui se crée entre les deux. Entre le...
Bah, putain, on le voit prendre un mouchoir en regardant un de ses pornos.
Entre le héros et donc son actrice favorite.
18 plus.
Ah oui, ça c'est du 18 plus. Hein. On l'a pas précisé au début, mais c'est du sign-in. Donc ça s'adresse à un public majeur et averti.
Et vacciné, ouais.
Voilà. Il faut savoir ce sur quoi vous allez tomber. Parce que non seulement c'est un peu coquin, mais en plus de ça, ça risque d'être un peu gore. Voilà.
Okay.
Donc c'est soit tu vas faire des rêves qui mouillent ta couette, soit tu vas faire des cauchemars. Voilà. Donc non. Là, c'est pour les grands, ça. Donc ensuite, notre héros se lie d'amitié avec sa pote, et là il va y avoir un premier événement déclencheur. C'est que y a des extraterrestres qui débarquent. Alors, on sait pas trop comment, etc.
Puis
je vous laisse le plaisir de la découverte. Hein, voilà. Mais notre très cher Papico, elle se retrouve avec du coup un espèce de pouvoir magique. Elle a une montre au poignet, et cette montre, elle se rend assez vite compte que c'est un espèce de potard, un potentiomètre, et que quand elle clique dessus, elle va pouvoir soit rapetisser, soit surtout grandir. Voilà. Et du coup, donc le premier enjeu, ce à quoi ça va lui servir, bah c'est par exemple, Papico, elle a son petit copain, c'est un gros con qui est là-bas, qui est alcoolique, tout ce que tu veux. Elle va pouvoir se servir de ses pouvoirs dans un premier temps pour s'émanciper de cette relation-là en cassant la gueule à son copain terroriste. Voilà. Et donc ça, du coup, on a donc un premier arc là où on va s'intéresser un petit peu à la vie des personnages. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de ces nouveaux pouvoirs? Le jeune, comment est-ce qu'il va pouvoir aider elle, l'actrice? Voilà, avec des situations assez surréalistes, vous allez voir. Donc c'est assez rigolo de ce côté-là. Et à côté de ça, on a un espèce de petit aspect Black Mirror. Le premier tome ne fait que poser les bases. Hein. Voilà, on nous présente les personnages et on nous présente cet autre aspect, c'est-à-dire, ok, cette actrice-là, elle a eu ses pouvoirs via des extraterrestres mystérieux, on ne sait pas trop comment. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire de ces pouvoirs? Bah, au même moment, il y a un espèce de jeu à la Black Mirror qui se déroule dans l'univers où on retrouve un espèce de vote en ligne. Votez pour ce que vous voulez qu'il se passe. Et ça arrive. Alors, par exemple, là, dans le premier tome, on a quoi? On a droit à une pluie de caca.
Ça, c'est naze.
Bah, si tu laisses les gens voter, ça va être des trucs comme ça.
Voilà.
Les fantasmes des gens.
Qui arrivent vraiment. On a droit aussi à un acteur qui court tout nu dans la rue, ou encore un tremblement de terre. Voilà. Donc, les enjeux sont posés.
Quant aux extraterrestres.
Le dessin est magnifique. Hein.
Oh, c'est vrai que c'est beau.
Monsieur Oku.
C'est très fin et tout.
Ouais. Alors, il a un truc très particulier. Notamment, là, si vous regardez cette dernière planche, moi, je sais comment ça a été fait. Ça a été fait à partir d'une photo où décor a été modélisé en 3D, puis ensuite texturé.
Mais ça m'étonne pas, ça se voit.
Enfin, les personnages ont été intégrés dedans. Donc, les personnages, c'est plus ou moins le seul truc dessiné à la main, en fait.
On l'a vu tout à l'heure, il y avait une maison en gros plan, justement. On voyait que c'était vraiment tiré d'une photo.
Moi je trouve ça assez stylé. Ça fait quelques années depuis les débuts de Gantz, en fait, sur ces trois derniers mangas là, il utilise ce style là il y en a même un quatrième qui est pas vraiment sorti en Europe. Moi je l'ai lu, mais en scan, je crois pas que ce soit sorti chez nous. Il a donc cette méthode là de dessin qui donne une patte graphique vraiment super super stylée à ces mangas. C'est très beau. Voilà. Gigant, les bases sont posées. On attend de voir le second tome. Là, le premier est sorti fin août. Donc, on l'a lu.
C'est chez qui déjà?
On l'a lu septembre.
C'est chez
Kihun. Le premier tome. Le second sort début novembre à peu près. Voilà. Donc, on a hâte de le lire pour voir ce que ça va donner et où va partir l'histoire. Et surtout.
Du porno extraterrestre, moi.
Ouais. Non, il n'y en a pas là-dedans.
Ouais, mais moi, dans le mélange des genres, c'est ça qui m'intéresserait, tu vois.
Avec les Simpsons qui débarquent aussi.
Mais voilà, donc, une nouvelle série à suivre, hein, avec un auteur, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Voilà, espérons qu'il ne se perde pas dans ses faiblesses ce coup-ci, qu'il nous propose une œuvre bien du début à la fin, comme il l'a fait avec Last Hero, en fait, son dernier manga juste avant. D'accord. Voilà.
Parfait.
C'était tout pour ce petit hors-jeu.
Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup, Genuine, de ta sollicitude et ce manga à suivre, donc, que vous retrouverez bientôt chez vous pour le tome numéro 2, si tout va bien. Parfait. Ben messieurs, voilà, hein, je crois qu'on a fini ce podcast 506.
C'est vrai?
Alors je sais que Thomas, tu voulais qu'on rajoute les nouvelles émissions. Oh bah elles sont là,
c'était,
hein,
c'était pour rappel.
Exactement, oui, oui, on va les rappeler effectivement qu'il y a Gameblog Hebdo qu'on a sorti la semaine dernière. N'est-ce pas? Apparemment, vous aimez le format, etc. Donc, on continue, hein. On va continuer à le faire pour un petit récap des news de la semaine, comme ça, pour ceux qui auraient loupé celle de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi. Bah, écoutez, c'est parfait pour vous, voilà.
Ceux
c'est...
qui bossent, contrairement à nous.
Exactement. Un mini format qu'on voulait faire, donc voilà, on l'a fait. Et on va continuer comme ça, on va rajouter de temps en temps pour améliorer le site et puis vous fournir. Des choses un petit peu différentes de ce qu'on avait avant, quoi. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup à tous.
Merci, mon cher Traz,
de nous suivre. Bisous. On espère que ce podcast vous aura plu. Bien sûr, vous retrouvez toujours les rubriques et les tests sur le site, hein, comme d'habitude. Les tests de Johnny One, les tests de Thomas, de Romain. Il y en a d'autres qui arrivent. Cette fin d'année va être un peu chargée, même si c'est une transition entre deux
consoles.
Entre deux sorties de machines. Il y a toujours la Switch qui est là et. Elle apporte toujours son lot de.
Pour une fois qu'elle est pas chez Johnny One.
Exactement. Tout à
c'est
fait.
C'est vrai que ça fait un moment qu'elle est ici là.
Ouais, c'est vrai, c'est
bizarre, ça fait deux semaines.
Regarde, parce que la Switch Lite maintenant, donc on va la planquer celle-là aussi.
Tiens, pour mon prochain test, je prendrai la.
Ouais.
Je prendrai putain, la ça y est, on va plus la voir.
Mais tu fais gaffe, tu détaches pas les Joy-Con. Ouais, parce que t'inquiète. Ça te pétait. Bah allez, il est temps de se dire au revoir. Merci à Pouffy la technique, comme d'hab, et puis merci à tous de votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast.
Des bisous.
À plus tard. Jouez bien. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.